qui se cache derrière le micro de vos podcasts favoris, tech, business, lifestyle, culture, sport, gaming ou news. C'est exactement ce que nous découvrons dans Offcast, le off du podcast français et francophone. Nous partons 2 à 4 fois par mois dans les coulisses du podcast français à la rencontre des acteurs de cet écosystème véritablement effervescent. Dans chaque épisode d'Offcast, vous découvrirez le profil, la personnalité et la passion du ou de la host, mais aussi son parcours, ce qui l'a amené à créer son podcast, comment il ou elle trouve ses sujets, ses invités, sa vision du développement d'une communauté autour de ce format et ses conseils pour découvrir, comprendre et adopter l'esprit podcast. Je suis Raphaël Grieco, grand fan de podcast, et je suis également à l'origine de l'initiative Podcast Makers qui réalise les podcasts Offcast. Et oui, Podcast Makers, c'est la première communauté française 100% indépendante de podcasteurs passionnés. Si toi aussi tu es host ou si tu produis un podcast existant, rejoins cette toute première communauté réservée aux hosts et éditeurs de podcasts sur www.podcasts.com. Avant d'entamer ce nouvel épisode, un dernier mot sur le format d'Offcast. Offcast est résolument un podcast différent et en perpétuel renouveau. Pour chaque épisode, un ou une nouvelle host, membre de la communauté Podcast Makers, viendra à la rencontre d'un ou d'une invitée podcasteur, membre également de Podcast Makers. Et maintenant, sans plus tarder, place à ce nouvel épisode d'Offcast.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Offcast, le podcast qui vous en dit plus sur les podcasteurs français et francophones. Alors je suis un petit peu perturbé parce que d'ordinaire ce n'est pas mon podcast, hein. On s'est lancé dans ce projet avec l'équipe de Podcast Maker France, ou plutôt Podcast Maker francophone, pour interviewer ceux qui sont derrière le micro et qui font vibrer vos oreilles. D'habitude moi je suis plutôt l'host du podcast Dans les Vestiaires, et aujourd'hui je reçois Monsieur Jérôme Cazerolle. Je préfère te laisser la parole pour te présenter.
Eh ben bonjour. Alors bon, je sais pas si je fais vibrer les oreilles de tout le monde. J'espère que ça sera le cas. Je m'appelle Jérôme Cazerolle. J'anime le podcast Biomécanique, qui est un podcast, on peut dire récent, je pense, dans le milieu du podcasting, puisque ça fait tout juste 1 an, et on va dire depuis 3 mois que je suis passé à une fréquence d'un épisode par semaine. Donc où j'ai essayé de professionnaliser le truc, d'essayer de procédurer la sortie d'épisodes pour faire quelque chose de plus fréquent et de plus sérieux. Le podcast Biomécanique, donc, c'est des interviews aussi, puisque j'invite des sportifs, des athlètes, des passionnés de sport, d'entraînement, et aussi des spécialistes un peu moins athlètes, mais plus thérapie. J'ai eu des ostéos, j'ai eu un acupuncteur, j'ai eu un kiné. Et je compte faire plus d'épisodes comme ça avec des professionnels un peu de la santé, côté thérapie, mais toujours avec un lien avec le sport, parce que c'est un peu mon truc. Donc voilà, je suis ostéopathe, je ne l'ai pas dit, mais c'est un petit peu mon métier de base. Le podcasting, c'est pas mon métier.
D'accord, bah on y reviendra peut-être un petit peu plus loin pendant le cours de cet épisode, parce que justement, on en parlait un petit peu en off. On va essayer de dérouler quelques questions, et notamment cette question de est-ce que tu es professionnel du podcast ou pas. Tu t'es présenté rapidement. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans les détails, c'est-à-dire tu as un bel accent français, voire même un accent un petit peu du sud de la France. Ouais. Peut-être de l'autre côté, excuse-moi, j'ai fait plutôt l'accent marseillais. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus en détail, d'où tu viens, ce que tu fais, bon, ce que tu fais, tu nous as dit t'es ostéopathe, mais où est-ce que t'as étudié, et puis peut-être où est-ce que tu vis actuellement, parce que si je ne m'abuse, nous ne sommes pas sur le même fuseau horaire aujourd'hui.
Non, pas exactement, on a 6 heures de décalage pour être précis, et j'ai fait mes études à Bordeaux, pour être extrêmement précis, dans le sud-ouest de la France. C'est de là où je viens, c'est là où je suis né, c'est là où j'ai fait toute une partie de ma vie, on va dire, et j'ai décidé de m'expatrier maintenant il y a 3 ans au Canada, plus précisément au Québec, et encore plus précisément à Montréal. Donc là j'habite et je vis à Montréal toute l'année. Que veux-tu savoir de plus par rapport à ça? Qu'est-ce qui t'intéresserait de savoir?
Alors déjà, tu nous as pas dit quel âge tu avais.
Ouais, mais c'est un exercice particulier de se présenter. C'est pas un truc que j'ai l'habitude, parce que généralement c'est moi qui pose les questions, c'est moi qui fais les interviews. Donc et j'essaye de pas je ne demande pas aux invités de se présenter, ce qui fait que je n'ai pas eu l'éducation pour le faire. Donc j'ai 30 ans aujourd'hui, depuis janvier. Je suis ostéo, j'anime le podcast biomécanique, je suis venu à Montréal il y a 3 ans, je travaille ici dans deux cliniques là actuellement, deux cliniques où je fais des consultations d'ostéo. J'ai une spécialité autoproclamée, on peut dire, sur le sport et sur l'analyse un peu des morphologies, l'analyse des physiques en fonction des activités sportives et comment on peut essayer d'adapter, que ce soit de la récupération, que ce soit des sports ou des entraînements, à la morphologie et à la mécanique personnelle en fait, de chacun. Et ouais, non, sinon, bah, écoute, je fais 1m73 et j'ai les cheveux longs et on peut me reconnaître facilement en général.
Ah, et la barbe, mais je t'ai pas demandé ton poids, ça je m'abstiendrai bien de le demander à mes invités, qu'ils soient hommes ou femmes, je sais que parfois ça peut fâcher.
On va pas discriminer, mais là les gens ils le voient pas, hein, parce qu'on est en audio, mais tu as été agréablement, j'espère, surpris de voir ma tenue au Skype, puisque je n'ai pas revêtu de haut. Pour enregistrer, je me suis dit qu'on était à la bonne franquette, quoi. Donc,
c'est ça,
il fait
on est
chaud,
entre nous.
Certes, mais...
ça, j'aurais presque fait la même parce que, donc toi, tu l'as dit, t'es à Montréal. Moi, je suis à Luxembourg. Je crois qu'il fait chaud partout en ce moment. Bon, même si certaines personnes un peu blondes et un peu âgées qui dirigent actuellement l'un des plus grands pays du monde nous disent que le réchauffement climatique n'existe pas. Moi, je pense qu'il fait de plus en plus chaud et surtout, on l'a bien vu pendant ce confinement où on a eu un temps un petit peu exceptionnel. Mais bon, comme je te disais, j'aurais bien fait la même, sauf que je n'ai pas ta carrure et ton physique, alors je vais rester avec mon petit polo derrière mon micro. Non, pour revenir un petit peu plus sur ta présentation de manière un peu plus sérieuse, moi ce qui m'intéresserait de savoir, c'est tu as étudié à Bordeaux, tu as fait toute ta scolarité à Bordeaux, tu es devenu ostéo. Ouais. Alors déjà, pourquoi avoir choisi l'ostéo, tu vas me dire, c'est peut-être pas une question qui a sa place dans un podcast de présentation des podcasteurs français, mais moi je trouve que si, justement, déjà pour fixer le cadre, et puis aussi, tu as un podcast de sport, j'anime des podcasts de sport, et je pense que ça peut intéresser aussi nos auditeurs. Donc pourquoi avoir choisi l'ostéo? Est-ce que tu étais déjà sportif avant ou est-ce que tu l'es devenu après? Quel sport tu pratiques? Et puis après, les questions vont s'enchaîner évidemment, mais on pourra peut-être terminer par pourquoi le Canada?
C'est pas des questions faciles et je pense que ça dépend comment on voit le truc aussi et comment on définit la notion de sportif et de non sportif, pratiquant assidu ou pas. Donc. Je pense que j'ai eu un attrait au sport qui est venu pendant les études, en fait. L'attrait, c'est là où j'ai un petit peu, tu sais, j'ai acheté un peu des poids, des haltères, des choses comme ça. Donc, j'ai commencé à m'intéresser un peu au développement physique. En même temps, c'était pendant peut-être la troisième année, tu vois. Donc, développement physique, la force, tu te renseignes un peu sur tout ce qui est hypertrophie. Ça te fait, tu fais les recoupements entre tes études sur la biochimie et sur aussi la nutrition avec le fait de se développer physiquement, etc.
Tiens, avant que tu continues, je te coupe juste 30 secondes pour fixer aussi la chose. Donc, tu as dit, tu es ostéo. Est-ce que tu es passé par la case kiné ou tu as fait directement une école d'ostéo?
Non.
Comment ça se passe, en fait, les études, en tout cas en France, d'ostéo?
Alors, je ne suis pas passé par la case kinésithérapie, directement ostéo. Les études ostéo, c'est très simple, c'est des écoles. Écoles d'ostéo privées, il y en a une bonne poignée en France maintenant. Je ne me tiens pas au courant de l'actualité de toutes les écoles d'ostéo, donc je serais incapable de dire combien il y a d'écoles et quelles sont les meilleures écoles. Celle que j'ai fait était d'une bonne réputation. En tout cas, je pense avoir été bien formé. Le diplôme est généralement délivré au bout de la cinquième année. Ça, c'est quelque chose qui avait changé, moi, pendant mon cursus. C'est qu'il y avait, un 3+2 à l'époque où tu étais diplômé après 3 ans parce que tout ce qui était l'apprentissage du viscéral et du crânien était à la 4e et à 5e année et n'était pas requis, en fait, pour être diplômé ostéo. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont battus pour uniformiser un peu cet apprentissage, parce que ce qui faisait qu'il y avait des écoles qui délivraient le diplôme pas au même moment, donc c'était un peu disparate, tu vois, sur la qualité des formations. Maintenant, ça s'est bien mis en place, de ce que je sais, c'est qu'il y a, il faut les 5 ans, il y a des heures de pédagogie à respecter, il y a de la clinique à faire, tant d'heures de clinique pour que l'école puisse être reconnue et validée par je ne sais quel ministère, pour en fait émettre des diplômes.
Ok, donc toi, tu as fait une école d'ostéo, tu nous en as dit un petit peu plus sur l'école d'ostéo. Qu'est-ce que c'est, en fait, l'ostéo? question toute bête, mais je pense que tout le monde connaît à peu près les kinésithérapeutes. Et je crois qu'il n'y a qu'en France qu'on appelle ça des kinésithérapeutes. Ailleurs, ça s'appelle plutôt des physiothérapistes. Mais souvent, les kinés sont aussi ostéos, ou les ostéos ont aussi une passerelle pour être kinés. Mais finalement, qu'est-ce que c'est la kinésithérapie et qu'est-ce que c'est l'ostéopathie ?
Alors, à mon souvenir, il n'y a pas de passerelle d'ostéo pour devenir kiné. Si tu veux être kiné, il faut obligatoirement passer par le concours général des...
C'est la première année commune des études médecine et paramédicale.
Exactement, voilà. Donc c'est une formation qui va être universitaire. Ici aussi, par exemple, au Canada, ou j'imagine peut-être aux États-Unis, c'est des formations qui sont universitaires. On appelle ça les physiothérapistes, enfin le physiothérapeute. Donc il n'y a pas de passerelle. Par contre, effectivement, kiné, tu peux faire ostéo. Il suffit juste de suivre en fait un cursus d'une école, parce que l'ostéo, c'est une école privée en fait. Alors, qu'est-ce qu'un ostéo exactement ? C'est pas facile pour les gens qui n'ont jamais été voir d'ostéo, parce que ça peut paraître un petit peu mystérieux ou un peu bizarre des fois. Et même, on peut se confondre avec le kiné. Finalement, qu'est-ce que fait l'ostéo de plus que le kiné ? Je vais pas parler pour le kiné, je vais parler pour l'ostéo, et je vais surtout parler pour moi, de comment je vois cette profession. En fait, on est là pour redonner la pleine mobilité, et en tout cas la pleine... capacité au corps à pouvoir passer outre une douleur, en fait, à se rééquilibrer, à être en harmonie. On parle beaucoup d'équilibre, en fait, d'équilibre du corps. Donc l'ostéopathe, il va regarder un petit peu toutes les structures et va essayer de comprendre quelle structure s'adapte par rapport à une autre. Tu vois, si tu as une douleur au niveau du dos, pourquoi elle a été là ? On va essayer de comprendre la cause, essayer d'aller chercher la cause du problème en remontant sur des chaînes, par exemple des chaînes de lésions, des chaînes de dysfonction. Il va y avoir une perte de mobilité à cet endroit-là, ce qui va enchaîner une compensation un peu plus haut, etc. Et ça, en cherchant les chaînes, en cherchant l'origine du problème, on va essayer de corriger la source pour que le corps ensuite puisse retrouver son état d'équilibre. Je te la fais vraiment cliché, quoi.
Ouais.
Moi, après, dans ma pratique, elle est beaucoup basée sur la compréhension de comment ça bouge, en fait. Est-ce que les mouvements se font dans une bonne harmonie ? Est-ce qu'il y a des tensions musculaires ? Pourquoi elles sont là ? Est-ce que l'articulation, elle bouge bien ? Est-ce qu'il y a une restriction d'un côté ? Est-ce que ça... Voilà. Bon, ça peut paraître un peu compliqué, mais au quotidien, c'est pas si compliqué. Il y a plusieurs approches d'ostéo. Moi, je suis très mécanique. J'aime bien expliquer les choses par la mécanique, par la structure. Il y en a d'autres qui sont plus énergétiques, et c'est ce qui différencie certains ostéos qui ont plus une approche douce, d'autres qui auront une approche dite structurelle qui fait craquer. Voilà, c'est des différents outils.
Donc toi, tu es plutôt mécanique, peut-être d'où le nom de ton podcast, on y reviendra après, mais biomécanique, voilà, tu es plutôt sur la mécanique du corps.
Ouais, bah il y a un lien, il y a un petit lien, oui, effectivement.
Ok. Allez, juste une question pour compléter sur cette histoire de kiné et ostéo. Est-ce que l'un et l'autre sont complémentaires, ou est-ce que l'un et l'autre sont complètement différents ? Et dans le traitement, notamment, tu l'as dit, tu reçois beaucoup de sportives et sportifs de haut niveau ou amateurs. Est-ce que un sportif sera aussi bien encadré s'il a un kiné et s'il a un ostéo, ou il va lui falloir un professionnel qui va avoir les deux spécialités? Enfin, quel serait ton conseil un peu là-dessus?
Je pense que l'ostéo, c'est un peu c'est une pratique à part entière. Un très bon ostéo, il va rarement dire que c'est un enchaînement technique. C'est plutôt, il va se considérer comme un art, tu vois, comme un artiste. Bon, moi non, hein, parce que j'ai les pieds très sur terre, mais ce que je veux dire, c'est dans la façon de percevoir le truc, c'est une approche très c'est viscéral pour certains, ce qui fait que j'aurais tendance à dire qu'un excellent ostéo pour son athlète, ça serait bien s'il était que ostéo. Dans ce sens-là, c'est parce qu'il va, en fait, il va le traiter en ostéo, et il va pouvoir partager ses résultats, ou en tout cas ce qu'il trouve, et les traitements appliqués. Il va pouvoir le partager avec un kiné qui, lui, va avoir une approche peut-être un peu plus kiné. C'est bien si les deux savent de quoi il s'agit, évidemment, parce que pour interagir et pour avoir une synergie, une bonne synergie par rapport à l'athlète en question, c'est bien que les deux savent de quoi il s'agit. Mais après, j'ai envie de te dire, il y a des ostéos, il y a des kinés qui sont ostéos et qui sont très bons en kiné et en ostéo. Honnêtement, j'ai pas un truc arrêté sur la question. C'est un truc qui est en perpétuelle évolution aussi, tu vois, parce que il y a des trucs que je fais aujourd'hui, je faisais pas il y a quelques mois, parce que c'est des techniques, ou alors c'est des visions de kiné, mais moi qui m'aide dans mon ostéo aussi. Donc si la question c'est est-ce que c'est bien d'aller voir les deux, oui, parce que c'est deux approches et deux deux façons de réfléchir différentes. Est-ce que c'est obligatoire? Non, ça dépend aussi de l'objectif et ça dépend. Est-ce qu'il y a une douleur? Est-ce qu'il y a un problème qu'on veut surmonter? Et puis des fois, voilà, quelqu'un, l'un des deux va trouver la solution et pas l'autre. Et c'est pas nécessairement parce que c'est une technique d'ostéo, mais bon, ça engage que moi, quoi.
Ok. Bon, en tout cas, moi, si tu veux, je te partage mon expérience. J'ai vu quelques kinés parce que je suis pas sportif de haut niveau, mais j'ai fait un peu de sport. J'ai vadrouillé un petit peu en Europe, donc j'ai vu quelques kinés et celui qui me suit actuellement, et ben, il est d'abord kiné et ensuite ostéo. Il a une approche beaucoup plus ostéo, justement, beaucoup plus détaillée, toute la chaîne de douleur, voir d'où vient le problème et pas j'ai mal à la cheville. Ok, je vais traiter la cheville. Non, on va regarder un petit peu d'où vient le problème sur toute la jambe et même parfois le haut du le bas du dos et autres. Et cerise sur le gâteau, il a un peu le même look que toi. plutôt baraque, cheveux longs et la barbe. Donc non, si jamais tu reviens en Europe, il faudra que tu viennes nous voir.
Non mais toi tu vas faire rêver les je sais pas s'il y aura beaucoup d'auditrices qui vont écouter, mais baraque, je sais pas, hein, c'est tout.
Écoute, c'est le but, c'est le podcast pour découvrir qui sont derrière les micros. Voilà, on nous voit pas, donc voilà, on va faire rêver tout le monde, les hommes, les femmes, tous ceux qui veulent nous écouter. Revenons un petit peu sur la question que je t'avais posée juste avant de te couper la parole, où je te demandais finalement pourquoi ostéo et est-ce que tu étais sportif avant quelle était ta pratique du sport?
Ouais, donc comme je disais, je pense que j'ai développé ma sensibilité, mon affinité au sport, au développement physique et toutes ces composantes pendant mes études. Mes études m'ont grandement aidé à comprendre on va dire la physiologie du sportif, et inversement mon intérêt sur le sport, l'ostéo et les études m'ont aidé à mieux comprendre aussi comment fonctionnait un corps humain dans son mouvement et dans son activité. Donc je pense que ça s'est fait un peu de concert. J'ai toujours, par exemple à la con, moi j'ai toujours pratiqué du tennis par exemple, j'en ai fait pendant des années, même avant mes études d'ostéo. Donc après, comme je disais, tout dépend de la définition de sportif. Est-ce que je pratiquais un peu de sport, que j'étais plus ou moins actif avant mes études? Oui, mais je pense que vraiment cet intérêt qui m'a après peut-être amené vers le développement, la création du podcast et peut-être de m'orienter un peu plus vers les sportifs pour mon activité professionnelle, je pense que... cette affinité de sport m'est venue pendant et après les études. Qu'est-ce qui m'a donné envie d'être ostéo? Ça, c'est une question, je ne suis pas sûr d'avoir aujourd'hui encore la réponse.
Parce que si je ne m'abuse, l'ostéo, tu rentres post-bac. Donc, tu n'as même pas d'année préparatoire comme le kiné, tu rentres post-bac. Donc, qu'est-ce qui, à 18 ans, a fait que, tiens, je vais m'orienter plutôt vers ostéo plutôt que vers kiné ou médecine ou dentaire
En réalité, je ne me suis pas orienté ostéo directement. On va dire que moi, mon grand rêve de base, c'était chirurgien. J'aurais adoré aimer être chirurgien. Et,
mais ça gratte le masque avec la barbe.
ouais, mais bon, tu sais quoi, regarde, quelques années plus tard, on est obligé de porter le masque partout. Donc finalement,
<C'est clair. rire>
finalement, je suis un peu chirurgien chaque jour je prends le métro, que je me balade. Mais j'ai fait les études de médecine. J'ai fait la première année de médecine. En fait, j'ai tenté le concours puisque les études médicales, l'approche du corps est vraiment, moi, c'était le chirurgien, c'était un truc qui me bottait le plus. Mais tu sais, quand tu fais le concours, t'en es pas encore là dans ta réflexion. Tu veux rentrer en études de médecine parce que t'es intéressé par le corps, la médecine, le traitement des maladies ou la compréhension de la physiologie. Donc j'ai fait le concours en fait. J'ai fait le concours que je n'ai pas eu. J'ai retenté le concours une deuxième fois, et c'était une année où il y avait les réformes pendant les concours de médecine, en tout cas en faculté de médecine, et ce qui fait que le fait d'être doublant normalement c'était un gros avantage pour les gens qui avaient déjà vu le programme une première année, qui avaient essayé le concours, qui l'avaient pas eu. J'étais pas très loin en fait, et donc j'ai retenté la deuxième année.
À deux doigts de passer.
Ouais, alors peut-être pas deux doigts, mais à une main ou deux. Alors j'ai refait l'année, sauf que on a été amputé de notre avantage puisque certaines matières avaient changé, ils ont fait des restructurations et on n'a pas eu le vrai avantage d'un doublant, à savoir de se taper exactement le même programme et d'avoir une année complète en avance par rapport à tout le monde pour pouvoir performer à la fin de l'année au concours. Donc c'est pas pour trouver des excuses, mais il se trouve que je sais pas si tu connais un peu le système, mais moi j'avais eu le sage-femme à la fin du concours, c'est-à-dire que j'étais j'étais pas aux bonnes places, j'étais un peu trop en arrière et j'avais juste les sages-femmes, après il y avait les dentaires, après il y avait les médecines, et donc j'avais pas eu le concours. Et à ce moment-là, moi j'avais fait une demande de triplement pour réussir une troisième année, et puis à l'époque ils étaient un peu plus souples justement, parce que comme il y a eu cette réforme, ils se disaient bon, les doublants de cette année n'ont pas eu l'avantage que les doublants étaient censés avoir, donc on va augmenter le quota des triplements en fait pour essayer de rétablir le truc. Et si tu veux, moi il fallait un petit peu que je me... j'ai un plan B, donc j'ai fait aussi un concours pour rentrer dans une école d'ostéopathie. Je m'étais dit voilà, j'ai envie de tripler, mais je fais quand même ce concours en ostéo parce que c'est quelque chose qui m'attirait en fait. La thérapie manuelle, autant kiné ne m'attirait pas tellement, mais l'ostéo m'attirait. J'aimais bien le côté on fait des choses avec ses mains et puis il y a des articulations qui craquent, ça a l'air super, tu vois, c'est cool, on remet les gens en place, tu vois, c'est l'idée qu'ont des gens des ostéos. Et donc, et j'ai eu les deux en fait. J'ai eu le moyen de tripler ma première année de médecine, mon concours, ou de partir en école d'ostéo, puisque j'ai fait le petit concours d'entrée et j'ai eu la réponse positive. Et à ce moment-là, ben, c'est la grande décision. C'est est-ce que je retente le concours ou est-ce que je pars en ostéo ? Et ben, je sais pas si j'ai, je pense, je sais pas si c'est un bon choix. Je le saurai jamais, tu vois, par rapport si j'avais redoublé, si j'avais triplé. Mais je me suis pas vu me retaper une année de sacrifice comme ça. J'ai choisi peut-être la voie un peu plus sereine, on va dire, de me dire je vais en école d'ostéo et voilà. Et puis bon, finalement, je regrette pas du tout puisque aujourd'hui je suis là, donc.
La voie la plus sereine, je sais pas, parce que t'as quand même dû bosser, j'imagine. Après, t'as choisi peut-être celle qui te faisait un peu plus vibrer.
Ouais, en tout cas, je pense que c'est quelques années plus tard celle qui m'a amené vers le développement de compétences et de capacités, enfin de capacités, je sais pas si c'est une capacité, en tout cas de compétences, on va dire entrepreneuriales et de développement, que ça soit de soi, de son activité, de business que tu veux faire, etc. Et de s'intéresser à toute cette partie des affaires également. Chose que j'aurais peut-être pas eu si j'étais resté en troisième année, si finalement j'avais eu le concours et que j'aurais été dans un hôpital, j'aurais été chirurgien ou n'importe quel métier. Donc bon, c'est une voie qui m'a apporté d'autres choses, quoi.
Disons que là, tu as peut-être aussi un peu plus de recul pour analyser ça, parce que si je compte bien, tu as 30 ans, donc tu as eu ton bac à 18, tu as fait deux premières années de médecine, donc tu avais 20 ans. À 20 ans, tu t'es orienté vers l'ostéo, tu as été diplômé 5 ans après, à 25, donc là, tu as 5 ans de recul. Si tu avais été chir, bah, tu serais tout juste diplômé, quoi.
C'est possible. Je serai sûrement pas à Montréal. J'en ai aucune idée. Oui, je serai diplômé. Je serai quelque part en France, dans un hôpital, peut-être en train de actuellement de faire une opération. J'aurais pas eu le même cheminement de vie, en tout cas de réflexion et de peut-être d'objectifs non plus. Parce que là, j'ai des objectifs, j'ai des envies pour le futur. Je sais plus ou moins où c'est que j'ai envie d'aller. Ah, ça aurait été complètement différent, quoi. Et puis, probablement que le podcast n'aurait jamais eu lieu et on n'aurait jamais eu ces discussions aujourd'hui.
Ben justement, comme on parle du podcast, on va revenir un petit peu sur le podcast dans quelques instants. Malgré tout, il y a toujours ma question qui est latente, c'est pourquoi Montréal ? Pourquoi le Canada ? Donc, si, encore une fois, si j'ai bien compté, tu as 5 ans d'exercice actuellement. Où est-ce que tu as exercé au début ? Et puis, pourquoi passer de la France au Canada ? Est-ce que dans les podcasts que j'anime, j'ai notamment eu la chance de recevoir Jérémy Azou, avec qui j'ai été mis en relation grâce à Barthélémy. Je sais que tu connais, puisque tu l'as déjà interviewé dans Biomécanique, n'est-ce pas ? Et Jérémy nous disait que lui, il est kiné, et il est parti au Canada, bon, lui, côté Vancouver, mais pour suivre son épouse qui faisait des études. Toi, qu'est-ce qui t'a amené au Canada ? Est-ce que c'est une spécialisation ? Est-ce que c'est...
Déjà, petit bonjour à Barthes, s'il nous écoute.
Il a intérêt.
Tu peux voir à lui, je lui passe mon amitié. Ouais, il était passé dans le podcast et c'était vraiment super. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'avait recommandé le groupe Podcast Maker. Et donc, voilà, c'est un petit peu grâce à lui si j'en suis là, si je suis devant toi, là, devant le Skype. Pourquoi Montréal ? En fait, moi, j'ai toujours été en France, surtout dans le sud-ouest. Tu vois, j'ai été à Dax, pour être précis, la ville là où je suis né. J'ai fait mon collège, mon lycée là-bas. Ensuite, je suis parti à Bordeaux faire donc d'abord des études de médecine. Ensuite, l'ostéo. Je suis revenu dans ma région natale, sud-ouest France, enfin Dax, aux alentours, en fait, où j'ai démarré une activité d'ostéo là-bas. J'ai fait à peu près un an. Et si tu veux, j'ai vite vu que ça m'allait pas. Ça m'allait pas d'être dans une petite ville, d'être resté toujours au même endroit, Si tu veux, j'ai eu un peu l'impression de me dire, bon, ben alors, c'est quoi ? Qu'est-ce que je vais faire ? C'est quoi le futur ? C'est quoi qui va m'arriver derrière ? J'ai l'impression qu'il va presque plus rien m'arriver. Je me vois pas m'installer là, dans le sud-ouest. Très bonne ville, enfin très bonne ambiance. C'est un secteur génial. Il y a la plage à côté, il y a les montagnes pas loin. C'est pas le problème. Mais je me suis dit, bon, ben voilà, ben là, je m'installe là et quoi ? Qu'est-ce qui se passe pour les toutes les prochaines années ? C'est pas, il y a pas une grande ville à côté. J'ai l'impression de pas pouvoir libérer un peu mon potentiel, tu vois, social, de rencontres, de développement, d'idées, de plein de trucs comme ça. Et je pense que cette impression d'être bridé, c'est là où j'ai eu envie de... J'ai commencé à rêver, à me dire, ok, j'aimerais peut-être aller voir ailleurs, tu vois. Qu'est-ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays ? J'aimerais bouger, j'aimerais voir d'autres choses, j'aimerais vraiment sortir de là. Et j'ai fait ma demande pour un permis de travail transitoire, en fait, pour le Canada. C'est très, très simple. Tu sais, c'est les fameux PVT. Hein. Tu peux en demander pour n'importe quel... Enfin, il y a énormément de pays où tu peux demander. Nouvelle-Zélande, Australie, Amérique du Sud maintenant et Canada. Et alors, il fallait faire concorder ça un petit peu avec mon métier qui était l'ostéo. Où c'est que je pourrais pratiquer ? Parce que c'est bien beau de se casser ou peut-être de faire le tour du monde. Mais pour le coup, j'avais pas vraiment. C'était plus pour. Voilà, je veux aller voir ailleurs, je veux aller voir autre chose. Mais en tout cas, j'ai une compétence, j'ai un diplôme qui est l'ostéo. Je veux quand même pouvoir travailler dans ce domaine-là. Donc, tu regardes où c'est que le diplôme il est équivalent, dans quels endroits. Et Montréal, enfin en tout cas, le Canada correspondait à tous ces critères, dont la province du Québec, qui est en plus une province francophone, ce qui rassure un petit peu parce que je ne suis pas un spécialiste de l'anglais, je ne suis pas un polyglotte avéré, et donc on va dire que le Québec et Montréal même rassemblent un peu tous ces critères. Partir de l'autre côté de l'Atlantique, en même temps être dans une culture complètement différente, un peu proche des États-Unis, d'être vraiment dans un contexte opposé, tu vois, c'est quand tu pars en vacances, tu pars pas en Espagne, mais tu pars aux États-Unis. Et non, la curiosité, la culture, le fait que ça soit une grande ville aussi d'Amérique du Nord, qui est une très bonne réputation, qui parle majoritairement français, même si bon, c'est à débat, de plus en plus de gens parlent anglais ici. Mais on va dire que c'est tout ça, quoi. C'est tout ça. Ça répond à tous les critères. J'ai fait de ma demande, j'ai été reçu. En tout cas, on m'a donné une invitation à présenter une vraie demande de permis de travail. Tu sais, j'ai été tiré au sort, etc. J'ai fait ça et puis je suis arrivé ici, quoi.
Comment on arrive ? Parce que là, j'imagine que t'as pas ton cabinet. Tu nous as dit que tu travailles dans une clinique, donc t'arrives, tu poses tes bagages. Comment ça se passe ? Est-ce que t'avais déjà commencé à démarcher, à faire des candidatures et à voir où est-ce que tu pourrais t'installer, ou t'as attendu de, t'as attendu de prendre l'avion pour arriver là et dire bon bah voilà, je suis là, maintenant je vais bosser.
Ouais. Alors je suis pas sûr d'avoir entendu le début de ta question parce que ça a coupé, mais je crois que j'ai tout le contexte en fait. C'est comment j'en suis venu à travailler en fait. Alors j'ai fait quelques recherches. Alors pour être tout à fait honnête, j'ai fait quelques recherches avant de venir, mais c'était des recherches un peu des cliniques, des endroits qui proposaient soit des locations de bureaux, soit des regroupements thérapeutes, etc. pour me donner une première vision. Mais c'était très très faible comme recherche parce que c'est difficile en fait de rechercher quand tu ne sais pas exactement où tu vas habiter. Sachant que c'est une grande ville, c'est pas une énorme ville, je veux dire, comparé à New York, c'est petit, Montréal, tu vois. Mais c'était quand même une grande ville, en tout cas à mes yeux, donc je savais pas où c'est que j'allais aller, dans quel peut-être quartier, quel secteur. Donc on va dire que j'ai juste fait j'ai regardé tout ce qui se faisait, et pour les équivalents, c'était tout simplement adhérer à la bonne association pour pouvoir émettre des factures, avoir des bonnes assurances, une responsabilité civile, etc. On va dire tout le côté administratif et logistique, j'ai plus ou moins préparé à l'avance, mais je n'ai pas envoyé de candidature, je n'ai pas... Or aussi, une candidature, je crois, mais la personne m'a répondu que ça serait mieux quand je serai ici, quoi. Quand je serai ici, ça serait mieux de repostuler. En fait, je me suis rendu compte que la clinique à qui j'ai envoyé cette candidature, elle n'était pas du tout proche de moi. Enfin, elle était Rive-Sud, donc assez loin, quoi. Donc, ça n'avait pas d'intérêt. Et pour être parfaitement transparent, je ne savais même pas comment c'était foutu Montréal, à tel point que je ne savais pas où était le centre-ville, où étaient les endroits, en fait, voilà, quels étaient les quartiers principaux. C'est quand je suis arrivé, moi, j'ai eu un Airbnb. Je pensais être prêt, j'étais pas prêt du tout. Et je me suis dit, putain, ok, je savais pas du tout que c'était fait comme ça, la ville. Et ça, je l'ai découvert sur le tas. Et donc, j'ai préparé la logistique, mais pas réellement le truc. Alors après, ce que j'ai fait une fois arrivé ici, ben là j'ai charbonné, hein, j'ai regardé un petit peu les endroits qui accueillent les thérapeutes, les locations commencent à fonctionner, et puis j'ai commencé à travailler en louant un bureau ici avec le matériel. C'était un regroupement thérapeute, et bon, après je vais pas tout raconter, mais c'est venu petit à petit comme ça. J'ai eu plusieurs endroits différents, hein, j'ai évolué et aujourd'hui je suis dans deux cliniques, toujours à mon compte en fait. Je suis toujours en statut de travailleur autonome, donc l'équivalent à peu près de d'auto-entrepreneur en France, quoi, même si c'est pas exactement le même statut, mais c'est l'équivalent, c'est tu travailles pour toi, quoi.
Ok, mais c'est pas une profession libérale.
C'est une profession libérale, mais ce nom n'est pas utilisé ici. On dit pas profession libérale, on va dire travailleur autonome, quoi. C'est tu travailles pour toi, et on va dire que dans les deux cliniques où je suis, c'est comme j'ai comme un travail de consultant en fait. Je travaille dans la clinique, j'ai des heures, moi je me suis organisé des heures, et en fait je facture la clinique.
Bon, écoute, je crois qu'on a bien dégrossi le terrain. Maintenant, nos auditrices, nos auditeurs savent à peu près qui tu es. Je pense qu'ils ont compris aussi à quoi tu ressembles. De toute façon, ils pourront regarder aussi la vignette de l'épisode.
Non, ils vont être extrêmement déçus. Ils vont être extrêmement déçus de à quoi je ressemble.
Bah écoute, j'ai fait un screenshot de notre conversation pour alors envoyer ça éventuellement.
J'aurais pu faire un double biceps, quoi. Ouais. Ça aurait été un peu plus impressionnant.
Ce que je te propose, c'est que maintenant, on passe vraiment dans le vif du sujet, le podcast. Le podcast biomécanique. La question de base, mais d'où t'es venue cette fichue idée de te lancer dans le podcast?
Cette fichue idée, quand je me suis lancé, moi, elle m'a pas paru si bizarre, tu vois, parce que j'ai goûté du podcast, en fait. C'est pas venu d'un coup, c'est un truc qui a maturé, mais quand j'ai l'idée... Je la réfléchis, et quand je l'ai assez réfléchi, on va dire, c'est en termes de semaines, et que je me dis ok, je trouve toujours ça bien et intéressant, je la lance très vite. Et donc c'est pour ça que le podcast est sorti. Mais moi, ça faisait un an et demi que j'écoutais du podcast régulièrement. Alors tu vas me dire c'est pas beaucoup, mais on va dire que j'avais ce média, j'étais baigné dans ce média, tu vois. Donc ça m'a pas paru complètement fou de lancer un podcast. Je me suis dit en fait je vais produire du contenu sur un média qui est moins connu que la vidéo, peut-être est beaucoup moins connu que l'écrit, mais qui est quand même qui existe, quoi. Tu vois, j'avais pas l'impression d'être un parfait marginal.
Ouais, malgré tout, un média, tu l'as dit, qui est différent de la vidéo, mais qui reste quand même assez facile et assez abordable en termes de sujet, puisque tu as choisi l'option de l'interview. Si tu avais fait un podcast sur l'ostéo tout seul, où t'expliquais des techniques d'ostéo, ça aurait peut-être été un peu plus compliqué de se lancer sur le podcast.
En fait, ouais, c'est-à-dire que j'avais quand même la conscience, parce que ça fait très longtemps que je suis tout ce qui se fait autour du marketing, autour des affaires, autour du développement, la création de contenu, etc. Tu vois, il y a plusieurs tauliers que je suis, notamment Stan Leloup de Marketing Mania, qui est
juste la bible du podcast, enfin la bible de la création de contenu francophone.
Exactement, et qui est podcasteur lui depuis très longtemps, même avant de faire du marketing. Donc j'avais conscience que le podcast est un média qui est pas facilement découvrable, en tout cas, que ça marche beaucoup du bouche à oreille, c'est très long, c'est tu ne fais pas ça pour faire un coup, en fait. Tu fais pas ça pour, tu lances un épisode de podcast, boum, tu fais un gros coup, comme pourrait faire une vidéo virale par exemple sur YouTube ou sur Facebook, tu vois. Donc j'avais cette conscience là, et si tu veux, je me dis ok, moi c'est un média que j'adore parce que je consomme beaucoup, on pourra peut-être en revenir sur les podcasts que je consommais, et j'avais envie de plus ou moins participer à ce truc là il faut que je crée, j'avais cette conscience, il fallait que je crée du contenu pour ma notoriété, pour mon plaisir personnel aussi, et pour développer mon activité, mais moyen long terme. Et donc, il faut que je crée du contenu. Alors, quelle plateforme, quel média, quoi utiliser, les articles, le web, tu sais, c'est un petit peu qu'est-ce qui m'attire le plus. J'adorais le podcast, mais en même temps, qu'est-ce qui est censé fonctionner, ou c'est qu'il y a un trou un petit peu pas dans le marché, mais qu'est-ce qui ne se fait pas et que je pourrais faire. Parce que si c'est pour faire la même chose que font tout le monde, c'est-à-dire des articles sur le mal de dos, j'en ai fait pour essayer de me faire connaître lorsque je suis arrivé ici. Bon, voilà, après, c'est pas un truc qui m'anime particulièrement. Donc, je me suis dit, le podcast, c'est vrai que c'est intéressant. Et j'ai regardé dans l'univers du podcast francophone, qu'est-ce qu'il existait en termes autour de la thérapie, autour du sport. Il y avait quelques podcasts, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même il n'y avait pas énormément de podcasts qui parlaient d'entraînement, de vrai entraînement. J'ai voulu commencer comme ça parce que moi, j'avais une approche de l'ostéo très tournée vers les pratiquants de musculation, ceux qui s'entraînaient, qui avaient des douleurs d'origine d'entraînement, en fait. Donc, j'ai voulu communiquer là-dessus en premier lieu. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de podcasts. Il y avait le podcast de Rudy Koya, Superphysique, que j'écoutais depuis longtemps, qui est full musculation, très, très musculation, ouais. Qui n'est pas un format d'interview. Et alors j'adorais l'esprit Marketing Mania interview, et en même temps dans mon secteur, l'entraînement, la muscu, la santé, la thérapie. Et puis j'ai fait un peu le mash-up des deux, et je me suis dit là j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui n'existe pas vraiment dans le milieu francophone du podcasting, donc je vais me mettre là-dessus. Et en même temps, mon idée, c'était quand même un podcast, c'est très difficile à faire connaître. Le meilleur moyen de faire connaître un podcast, c'est en fait d'avoir des invités de plus en plus prestigieux qui eux-mêmes vont partager, parce qu'ils sont contents de venir sur le podcast, de parler d'eux-mêmes, tu vois, et ils vont partager leur interview, et en même temps, ils vont peut-être, via ce partage, faire connaître mon émission et essayer de grossir petit à petit comme ça. Donc voilà pourquoi le podcast pour le format, et pourquoi le format d'interview, pour me donner aussi une chance de me faire connaître des bonnes personnes, à savoir des mecs que j'aimais suivre de base, tu vois. Rudy, je l'ai sur le podcast, ça fait très longtemps que je le suis. Il y en a plein, on
est
comme ça.
La question qui est-ce que le podcast, c'est ton activité principale ou c'est un side project? Bon, voilà, tu as répondu, c'est vraiment un side project. On a fait longtemps sur ton métier d'ostéo. Malgré tout, est-ce que tu as l'impression qu'avoir lancé ce podcast, ça t'aide dans ta pratique quotidienne d'ostéopathe, voire même, est-ce que ça te permet de t'apporter des patients? Est-ce qu'il y a une interaction entre ton métier, ton podcast, et ton podcast, ton métier?
Alors, il y a une interaction, mais elle est pour l'instant indirecte, car je n'ai pas assez de notoriété, le podcast n'est pas assez connu, mondialement connu, j'allais dire, pour me drainer une patientèle. Donc, il est indirect dans le sens où moi, ça m'aide en fait à tester de nouvelles choses, à aller à la rencontre de nouveaux principes, de nouvelles personnes qui, tu sais, à être curieux sur des nouvelles approches, sur les façons de voir les choses. Moi-même, quand en fait je fais des recherches pour voir qui c'est que je pourrais inviter, j'aimerais partager sur un épisode, ça me permet de voir les différentes pratiques et les différentes approches en fait des athlètes ou des spécialistes que j'ai. Donc, quand je dis qu'il est indirect, c'est ça, c'est que récemment. Tu vois, grâce à, par exemple, Aurélien Broussal que j'ai sur le podcast, ou même Olivier Bollier, ils ont des approches, ils ont des façons de voir les choses que j'essaye d'adapter, moi, dans mes consultations pour peut-être améliorer la qualité de mes consultations et de mes traitements. Et aussi, quelque chose d'un peu plus égoïste, c'est pour éviter de m'ennuyer, en fait. Parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'en consultation, si j'essaye pas d'avoir quelque chose, une vision nouvelle ou une façon de voir, ça ne veut pas dire qu'elle va être bonne, hein, mais essayer de voir les choses un peu différemment, d'analyser un physique, d'analyser une posture, il faut que j'ai d'autres choses en tête à tester, à voir, pour pas avoir l'impression de faire toujours la même chose. Donc, moi, ça m'aide dans ma pratique. Et puis j'espère que ça apporte des solutions aux patients que j'ai en même temps, tu vois. Les nouvelles découvertes ou les nouvelles approches que je développe, ça améliore la qualité de mes traitements. Mais bon, est-ce que la conséquence est directe? Est-ce que ça ramène des clients? Non. On peut dire client-patient, hein. Les gens ils vont s'insurger, mais ici on peut dire les deux. C'est pas en France, et tu dis client à la place de patient, c'est t'es catégorisé comme le premier commercial de l'univers, mais ici il n'y a pas du tout cette approche-là. Et de toute façon, ils te payent, donc ils sont clients. Et donc.
Ils payent pas toi, ils payent la clinique et toi, tu factures la clinique.
Ouais, tu as raison. Mais ouais, c'est vrai. Mais des fois, ils te payent directement. Non, mais si, tu as raison, je ne peux pas dire. Ils sont clients de la clinique. Voilà, moi, je suis. je m'efface. Non, mais j'ai eu des clients qui ont déjà écouté les podcasts. Après, est-ce que c'est ça qui ramène des gens? Non. Est-ce que les gens parfois peuvent me découvrir, par exemple, sur mon site web, voient que je fais un podcast, les aident à prendre confiance, ou voient que j'ai une approche qui pourrait les correspondre parce que je suis très orienté sport, et que pour le coup, c'est avec moi qu'ils veulent prendre rendez-vous, qu'ils veulent à tout prix m'avoir? Oui, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Est-ce que c'est 95% de ma clientèle? Non, les gens ne savent pas forcément que je fais du podcast.
Bon, voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il te reste juste dans ton cabinet à mettre plein d'affiches pour le podcast biomécanique. Et puis, même juste l'affiche sans expliquer, mettre juste biomécanique. Comme ça appelle à la question. Et puis, tu vas pouvoir en échanger avec tes patients. Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, mais tu sais quoi? Je préfère. C'est bête, hein, mais je préfère l'inverse. Je préfère faire la promotion ailleurs, autre part, et que peut-être les gens ensuite viennent pour ça, parce qu'ils viennent parce qu'ils ont vraiment envie de me voir moi et d'avoir un traitement avec moi par rapport à tout ce que je peux dire dans les podcasts, ils se sentent connectés avec l'approche que j'ai, plutôt que qu'avoir des patients qui me découvrent par d'autres moyens, bouche à oreille, via la clinique ou peu importe, et ensuite que je les convertisse en auditeur. Ça m'intéresse un peu moins. Si l'occasion s'en vient, j'en parle évidemment. Mais peut-être le premier côté m'intéresse plus, parce que j'ai pas besoin d'aller à la chasse forcément aux patients, tu vois. Et j'aime bien l'idée, en fait, l'idée que les gens y découvrent et ensuite ils viennent te voir pour ça. Et puis ça fait quand même des consultations, on va pas se le cacher, qui sont beaucoup plus intéressantes avec des gens. On est aligné, tu vois, dans la pratique d'un sport, dans la connexion, les affinités sportives. Donc c'est toujours plus intéressant.
Oui, j'imagine. J'imagine qu'il y a tout à gagner déjà à recevoir des auditeurs en tant que nouveaux patients plutôt que de convertir des patients en auditeurs. La connexion qui se crée dans un sens comme dans l'autre n'est pas tout à fait la même.
Ouais. Et puis, j'ai pas d'intérêt particulier à ce que les gens... Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, le podcast n'est pas ma première activité, donc je n'ai pas un intérêt, je n'ai qu'un intérêt personnel, j'aime ça, tu vois, si j'apprends quelqu'un qui écoute le podcast, super, cool, s'il écoute le podcast et qu'il vient me voir, je trouve que ça veut dire beaucoup plus, quoi. Ça veut dire qu'il apprécie le contenu, ça veut dire qu'ensuite il te fait assez confiance pour venir te voir, il y a quelque chose qui se fait, bon, je sais pas.
Je valide tout à fait. On a parlé de tes patients ou de tes clients, peu importe le référentiel dans lequel on se place. Si on parlait maintenant un petit peu de tes invités et de tes sujets, j'aimerais bien savoir un petit peu, pour rester sur l'humain, comment est-ce que tu trouves tes invités et forcément, comment est-ce que tu trouves tes sujets? Est-ce que c'est tes sujets qui impliquent tes invités ou les invités que tu trouves avec qui tu as vraiment envie d'échanger vont impliquer tes sujets?
Ben les deux, j'ai fait les deux. J'ai une liste d'invités de gens soit je tombe sur des réseaux sociaux, soit je tombe sur... ils créent du contenu et je me dis tiens, ça a l'air intéressant ce qu'il dit. Il y a plusieurs... type d'invité, hein, on va dire. Je sais pas si tu m'entends. Je vois qu'il y a un petit truc qualité médiocre. J'ai fait les deux. J'ai une liste d'invités que je remplis tout le temps, en fait, liste de possibles invités à contacter. Et à côté de ça, j'ai aussi une liste de sujets que j'aimerais aborder. Alors des fois, j'essaye de faire concorder les deux. Je me dis tiens, tel type de sujet, ça pourrait aller avec telle personne. Mais j'ai pas de règle absolue. Ça dépend. Il y a des fois, j'ai des invités sur ma liste, enfin des invités, des personnes que j'ai envie de contacter sur ma liste depuis des mois et que j'ai pas encore contacté parce que j'ai peut-être pas encore trouvé l'angle sur quel thème aborder un épisode avec lui. Et puis des fois à quelques 2-3 jours je vois quelqu'un et boum je le contacte à suivant pour essayer de l'avoir sur le podcast. J'ai pas de procédure particulière, mis à part que dès que je vois quelqu'un que je trouve intéressant dans son contenu et dans son approche, que ça soit soit un athlète qui est connu, soit un thérapeute, soit même par exemple un psychologue, comme j'avais eu Jérôme Quadrado qui est psychologue clinicien spécialisé dans les troubles du comportement chez le sportif, tout ce qui est dysmorphophobie, la bigorexie, etc. On n'est pas sur quelque chose, on n'est pas sur un thérapeute d'entraînement, on n'est pas non plus sur un athlète, et pourtant c'est voilà les troubles du sportif, les troubles psychologiques du sportif, j'ai trouvé ça absolument génial à avoir sur le podcast, quoi. Et ça c'est aussi un truc, au fur et à mesure où je fais des épisodes, je me prends un petit peu plus de liberté sur mon thème principal qui au départ était l'entraînement, la performance, l'anti-blessure, et bon là ça s'éloigne un petit peu. Je sais pas si ça répond à ta question.
Ouais, ça répond à ma question. Et puis, je sais pas si tu le sais, et en tout cas, je vais le répéter à nos auditeurs. Moi, j'anime plusieurs podcasts, et notamment un podcast où je suis co-host, qui s'appelle Nakan, le podcast des sportifs connectés et de l'endurance. Mmh. Et on a eu l'occasion d'aborder certains sujets, notamment la préparation mentale, notamment l'alimentation, ce genre de choses. Alors effectivement, stricto sensu, on s'éloigne un petit peu du sujet. Toi, tu l'as dit, ce serait l'entraînement, la performance, la non-blessure. Nous, ce serait le sportif connecté, enfin les sports connectés et l'endurance, mais d'un autre côté, je trouve qu'on est complètement dans le sujet, parce que tout ce qui est entraînement invisible, qu'est la préparation mentale, la préparation physique, autre que l'entraînement purement et simplement, le sommeil, tout ce genre de choses, rentre totalement dans la préparation, dans l'entraînement. Bon, là, on divague, on n'est plus sur toi, on n'est plus sur ton podcast, on est sur notre milieu du sport. Pour recentrer un petit peu le débat, toujours sur le podcast, tu nous as dit comment tu trouves tes invités, comment tu trouves tes sujets. En fait, c'est de la veille au quotidien que tu fais, j'imagine que tu te tiens au courant, tu regardes ça. beaucoup sur les différents sujets. La formation continue, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler dans le milieu médical, paramédical. Donc tout ça, finalement, permet de remplir ta bassine d'invités ou de sujets.
Ah ouais, mais cette bassine, elle est inépuisable presque. Hein. La liste s'agrandit de jour en jour. Je sais pas si on peut peut-être rentrer un peu plus dans les détails. Les auditeurs sont des gens qui sont intéressés par la création d'un podcast, j'imagine, ou par l'envers du décor d'un podcast.
C'est ça, ouais.
Il faut savoir qu'il y a différents types d'invités. J'ai fait beaucoup l'erreur au départ de penser que je ne voulais que des invités qui avaient une notoriété, qui étaient connus dans leur secteur. J'ai fait cette erreur-là de me dire que plus la personne était connue, plus c'est génial, elle aura de trucs à dire et elle va faire connaître le podcast, tu vois, ça va être un peu dans mon sens quand elle va partager. Il faut savoir que plus la personne est connue, moins elle a envie ni le temps de partager forcément ou d'en faire une promotion, déjà. Ça, c'est le premier truc.
Ou alors, c'est plutôt dilué dans toute sa communauté, dans toutes ses communications.
C'est ça, ouais. C'est dilué et donc ça a moins d'impact. Et souvent, les épisodes qui m'ont semblé les plus chouettes à tourner en termes de notoriété que j'allais gagner, c'était les épisodes peut-être les moins écoutés. Alors, je vais pas donner de nom, mais... donc, il faut vraiment... C'est ça. J'essaie de trouver, en fait, toujours le bon dosage entre l'invité qui a une notoriété, pour moi, gagner en partage et peut-être que le podcast se fasse connaître. L'invité qui est intéressant dans ce qu'il dit, parce que, tu sais, c'est pas à peine d'inviter le plus grand influenceur fitness qui est hyper connu si, en fait, tout ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Ça, c'est pas facile aussi. Non, mais ça, c'est vraiment pas facile parce qu'il y en a plein qui sont connus et, en fait, ils ont pas grand-chose d'intéressant à dire, tu vois. Donc, c'est quand même un peu... J'essaye d'avoir des personnes, des discussions qui vont apporter un peu de valeur à celui qui va écouter le podcast. Il y a ça, il y a aussi le spécialiste qui est hyper bon mais qui est très technique. Et alors faut un petit peu trouver l'assemblage, tu vois, entre un épisode qui va être orienté sur quelqu'un de connu, un épisode qui va être orienté sur un sujet un petit peu plus spécifique, comme par exemple Jérôme Quadrado n'est pas quelqu'un qui a une influence, comment dire, il n'est pas suivi par des milliers de followers, tu vois, il était passé sur une vidéo de Nassim Saïli, donc il avait eu cette chance en fait, mais si tu regardes un peu ses réseaux, il n'est pas suivi par des milliers de personnes, il y a très peu de personnes qui connaissent Body Psyché, mais par contre, c'est un des épisodes que j'ai le plus adoré faire. Tu vois, il dure plus de 2 heures, on a explosé les compteurs, mais je l'ai adoré parce que j'avais un tas de questions et j'ai trouvé que c'était un des plus passionnants. Et pourtant, c'est pas celui qui avait le plus d'autorité dans le milieu, quoi. Tu vois.
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi et je vois très bien ce que tu veux dire. Alors, je te demanderai pas de me donner des noms. Par contre, on avait parlé en off peut-être de parler un peu de fail ou d'anecdote. Alors, on va peut-être venir là-dessus, mais juste sur ce point-là, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des épisodes, notamment peut-être que tu as fait avec des grands influenceurs fitness ou des grands influenceurs dans tel ou tel sujet qui auraient pu intéresser ton podcast et te dire non? Non, finalement, ce podcast-là, cet épisode-là, je peux pas le sortir. Et si ça t'est déjà arrivé, comment tu as géré le truc avec l'invité?
Alors, j'ai une petite anecdote, c'est que mais je vais pas dire qui c'est, mais en fait, j'ai pas vraiment d'épisode que je regrette ou que je ne veux pas sortir. Bon, j'essaie d'orienter un peu le podcast, la discussion, tu vois, ça m'est jamais arrivé de raccrocher ou d'avoir terminé un épisode, une interview en me disant putain, ça c'était nul. Trop souvent, je vais dire que je me suis pas trouvé génial, tu vois. Je me dis ah, tu vois, je sais pas, j'ai l'impression de pas avoir rebondi au bon moment, de pas avoir forcément posé la bonne question. Ça, donc je vais peut-être être sur moi-même, tu vas me dire bon, j'ai l'impression que t'as pas été génial, mais c'est complètement subjectif et en général c'est tellement arbitraire que les gens vont penser l'inverse, tu vas dire oh, c'est un de tes meilleurs épisodes, donc c'est pour ça qu'il faut pas trop se fier à son propre truc des fois, tu sais, on est très difficilement objectif avec soi-même. Par contre, ça m'est arrivé d'abord un épisode que j'ai trouvé moins intéressant et que si je devais refaire, on va dire qu'il y en a une petite poignée, très légèrement, que si je devais refaire, je ferais un petit peu différent. Je ferais un petit peu différent, ou je ne les ferais pas. Mais pas parce que l'invité n'était pas intéressant, je pense que c'est toujours quelque chose qui est... Il y a plusieurs caractéristiques, plusieurs paramètres qui font que peut-être qu'il n'était pas en forme à ce moment-là, peut-être que mes questions, elles n'étaient pas géniales, je ne l'ai peut-être pas mis à l'aise non plus, peut-être que la qualité audio aussi n'était pas top. Et en fait, le tout et peut-être que l'épisode était encastré entre deux épisodes hyper intéressants et ça fait comme un flop, tu vois.
Ouais.
Mais bon, je vais pas dire exactement à qui je pense, mais un petit fail, enfin presque un fail, c'était je devais avoir il le sait pas, bon, je peux le dire, hein, c'était Rudy Koya que j'avais sur le podcast, c'était un de mes premiers gros on va dire très connu dans le secteur et moi que j'ai toujours suivi, j'ai beaucoup pendant très très longtemps suivi et aimé les travaux de Rudy Koya, Et alors je l'avais contacté et puis il m'avait répondu oui, et moi j'étais super content. Et en fait, le moment où on avait prévu d'enregistrer l'épisode, on s'était donné donc le rendez-vous sur l'agenda. Moi, la veille, j'ai eu un problème sur l'ordinateur, le Mac il a planté. Et quand je dis qu'il a planté, c'est qu'il voulait plus redémarrer. Il fallait, il fallait refaire une mise à jour. En tout cas, c'était un truc. J'ai laissé tourner l'ordinateur toute la nuit pour la mise à jour, pour les trucs. J'avais un problème de disque dur, j'étais obligé de l'amener réparer la semaine qui suit. Et en fait, je lui ai envoyé un mail 2 heures avant parce que je me disais, je croisais les doigts que l'ordinateur se mette à jour, fasse un truc, qu'il revienne normalement pour l'enregistrement de l'épisode. Et finalement, ben non, quand je vois 2 heures avant qu'il reste plus de 5 heures de défilage, mais c'était l'ordinateur planté en fait, il y avait un problème. Donc je lui ai envoyé un message pour lui dire je suis désolé, je vais pas pouvoir. Et je croyais que je l'avais perdu. Je me suis dit voilà, j'ai Rudy Koya sur le podcast, c'était le non, mes premiers invités. Et il faut que mon ordinateur plante à ce moment-là. Et je me suis dit, on va pas recéduler, il va pas, je sais pas, tu vois. Peut-être qu'il est occupé, il a d'autres choses à faire. Et finalement, bah, il a été super cool puisque j'ai fini par l'avoir, c'était la semaine d'après ou 2 semaines après, quoi.
Ouais, c'est un mec génial. Alors, on a échangé aussi un petit peu par mail pour l'instant. Je ne l'ai pas encore invité parce que j'attends d'avoir le bon créneau pour le bon sujet que je voudrais aborder avec lui. Mais il répond tout de suite du tac au tac, il est super ouvert. Bref. Un mec génial. En tout cas, pour l'avoir entendu déjà dans ses podcasts, dans le podcast des autres, notamment dans le podcast de Bart, je pense que c'est un gars top. On parle très rapidement de l'aspect technique. Alors moi, je vois dans quoi tu parles, mais nos auditeurs ne le savent pas forcément. Quand tu souhaites lancer un podcast, enfin, dans ta démarche, comment est-ce que tu as commencé ? Est-ce que tu as commencé avec un iPhone et des écouteurs d'iPhone, ou équivalent chez Android, ou tu es tout de suite parti sur du matos bien technique ? Et puis, si c'est le cas, bah, comment tu as fait ton choix ?
Je suis parti sur des écouteurs d'iPhone, hein, classiques, Parce que je m'étais dit je vais pas investir dans un truc, je sais pas trop ce que ça va donner, je sais pas si je vais apprécier, je sais pas si je vais garder l'envie de continuer à faire des épisodes. Donc mon truc c'était enregistre 2 ou 3 épisodes et une intro, enfin un épisode 0, c'est de présentation. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, alors comment je peux faire ? J'ai des micros d'iPhone, enfin un micro d'écouteur là, parce que t'as en ce moment là, tu vois, des écouteurs. Avec un micro dessus, la qualité est plutôt pas mal. Je m'étais renseigné, je m'étais dit fais avec ça. J'ai bitouillé 2-3 trucs sur Google pour voir comment on faisait pour améliorer un petit peu le son, tu vois, en passant par Audacity, en faisant un peu de compression, un peu de normalisation, etc., pour avoir un son qui est un peu mieux. Si t'écoutes donc les je crois que c'est les 3-4 premiers épisodes, même jusqu'à je sais plus lequel, mais le son est pas ouf, hein. Il est très métallique. Donc j'ai commencé comme ça. Et en fait, ça suffit largement. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est autour du podcast du Rudy, lorsque j'ai commencé à me dire, ok, je prends du plaisir, j'ai envie de continuer dans ce truc-là, tu vois, d'avoir de continuer à échanger avec des gens hyper intéressants, que ça serait sympa peut-être de faire un level up de la qualité audio. C'est à ce moment-là que j'ai regardé un peu ce qui se faisait en termes de micro. Alors je voulais pas un truc hors de prix. Encore une fois, je me suis dit, ça se trouve, j'ai envie de continuer, mais ça se trouve, je vais faire 20 épisodes et ensuite ça va s'arrêter. Donc je voulais un peu un milieu de gamme en termes de matériel. Et c'est comme ça que je me suis renseigné sur les différents micros. Et puis le Blue Yeti, donc c'est celui que j'utilise actuellement comme matériel, je trouve qu'il fonctionne bien. J'ai un filtre, je sais pas si c'est intéressant de lire, mais j'ai un filtre anti-pop. J'essaye de parler vraiment près dedans pour essayer d'avoir la meilleure qualité. Et je fais une petite amélioration post-production pour compresser un peu la voix, pour que ça soit un petit peu plus agréable à écouter. Et c'est tout, hein, c'est un micro USB directement branché sur le Mac et terminé, quoi.
Ok, alors justement, tu parles de post-production. Est-ce que tu mixes, tu montes, tu coupes, tu ajustes, qu'est-ce que tu fais avec tes épisodes ? Et puis, au-delà de ça, les notes de tes épisodes, est-ce que tu détailles tout l'épisode ? Est-ce que tu transcris ? Est-ce que tu fais transcrire ? Comment ça se passe ?
Pendant très longtemps, j'ai fait les montages moi-même et c'était un enfer. J'essaie de ne pas l'être parce que c'est anti-progression, je trouve, perfectionniste. Mais je suis un grand perfectionniste, donc quand je fais quelque chose, j'aime bien que ça soit bien fait. Bon. Tout le monde dit ça, hein. Personne dit non, moi j'aime les choses faites à moitié. Mais ça me bouffait du temps, c'est-à-dire que la préparation, ça me prenait un peu de temps. L'enregistrement de l'épisode, bon, ça prend le temps que ça prend. Mais par contre, le montage, ça pouvait me prendre jusqu'à 2 semaines. Parce que j'y allais presque au ralenti, j'avais des interviews d'une heure et demie où tu vas essayer de couper tous les petits clics, les petits blancs. Même moi, quand je me répète, quand je fais des tu vois, là, par exemple, je le fais, tu vois, quand je fais ça, je voulais à tout prix enlever tous ces trucs parce que je voulais que ça paraisse le plus net, je voulais enlever tous mes défauts et ça me prenait un temps fou. Et il a fallu que je passe par là, je pense. Et en fait, c'est à cause de ça que je ne pouvais pas monter la fréquence et que je me retrouvais avec un épisode tous les trois. Il faudrait regarder quand est-ce que j'ai sorti les épisodes, mais en tout cas, en l'espace de 6 mois, j'ai dû sortir 3 épisodes, ou peut-être moins, ou tu vois, depuis jusqu'à tout 2019, je dois avoir une petite poignée d'épisodes.
T'en avais un par mois, quoi. Alors, sauf juillet à octobre 2019, là, tu nous as fait un saut, là. Tu t'es blessé, t'es parti en vacances, qu'est-ce qui s'est passé?
Non, il y a eu plusieurs trucs, qui sont passés, ce qui fait que j'ai mon attention qui est allée un petit peu ailleurs. Pendant cette période-là, pendant cet été-là, mais j'avais pas l'intention d'arrêter, c'était juste en stand-by et des fois ça dure un peu longtemps. Mais ce qui fait que ça me prenait beaucoup de temps et je voyais pas. Et puis tu vois la montagne, tu disais bon, ben tu sais, tous ceux qui disent un épisode par semaine, ça me paraissait impossible entre le contact d'invités. Tout ça, c'est très nouveau. Tout ce qui est nouveau, toutes les nouvelles choses que tu fais, ça prend du temps, il y a de la friction. Et tu peux pas tout procédurer, il faut que tu passes du temps à faire les montages, il faut que tu passes du temps à te préparer. J'étais là 20 minutes avant le début de l'interview pour savoir si tout allait bien, si le setup il était en place, si le logiciel était bon, la connexion, etc. Bon, maintenant j'arrive 5 minutes avant, je branche mon micro et c'est bon, tu vois. Enfin, j'ai préparé l'interview avant, mais c'est pour dire que tout ça prenait beaucoup de temps, et le montage prenait un temps phénoménal. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, faut que je fasse quelque chose. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de déléguer le montage. Et en fait, j'ai tout filmé et quelqu'un que je connais, en fait, qui était intéressé par tout ça, en fait, par le montage, par la post-production audio, je lui ai proposé, est-ce que ça te dit de prendre en charge le montage ? Je te file tous les tutos que je vais filmer sur mon écran, je t'explique comment faire. Et là, pour le coup, je lui avais donné toutes les indications sur quoi couper, les blancs, les clics, ne pas laisser trop de blancs. Quand couper tout le son pendant que moi je parle, couper tout le son de l'invité, tu vois, pour pas qu'il y ait de petits bruits, tu vois, de ce genre de bruit comme ça là, qui est très très désagréable. Tu pourras le laisser pour que les gens ils s'en rendent compte. Tu vois.
Voilà, j'allais dire, quand je vais faire le montage, faudra pas que je coupe celui-ci.
Faudra pas que tu coupes celui-là. Et tu vois, et tout ça, donc j'avais tout filmé, je voulais que ça soit fait nickel, donc j'avais fait tout le truc procéduré, etc. Et petit à petit, donc. Je laissais de plus en plus de liberté, je disais ben, finalement évite de couper ça, ça fait plus naturel, évite de couper ça, et jusqu'au moment où en fait je me suis dit attends, là t'es dans un truc où faut y aller, faut charbonner. J'étais à un épisode toutes les deux semaines et je suis passé un épisode par semaine pendant que je déléguais les podcasts. Et à un moment donné, je me suis dit mais c'est bon, j'ai plus besoin de montage, parce que petit à petit je lui disais qu'elle pouvait laisser tel passage, que ça, elle était pas obligée de le couper, ça non plus, et puis à la fin, c'est quasiment, y a plus rien à couper.
Ouais, moi j'en suis pas encore là, je suis toujours dans enlever les petits blancs, les petits E, les petites hésitations, mais pas tellement de mon côté à moi, plus du côté de mes invités, parce que justement, je veux que le rendu pour l'invité soit juste à la hauteur de piédestal sur lequel je le place. Ok, ça c'est sur la partie technique. Sur la partie auditeur, justement, audience, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton audience, sur ton persona, qui t'écoute, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des vieux, des sportifs, des pas sportifs, des ostéos, des kinés, est-ce que tu as une vue un petit peu sur tout ça, et puis peut-être un petit insight sur tes stats, si tu veux.
Ouais, bah alors pour l'instant, c'est assez flou. L'audience, pour moi, elle est encore assez floue. Je pense qu'elle est composée majoritairement de sportifs, de gens qui sont intéressés par tous les sujets que j'aborde. C'est d'une évidence. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'hommes aussi que de femmes, bah, ne serait-ce que parce que j'ai pour l'instant que des épisodes avec des hommes. Malheureusement, j'ai des épisodes avec des femmes qui vont arriver, mais il y en a peu en fait qui ont accepté pour l'instant de passer sur le podcast. Peut-être qu'elles ont peut-être un peu peur de mes questions, mais ce qui fait que je pense pas avoir beaucoup de femmes, et tout ça est un peu flou. Est-ce que j'ai des kinés, des ostéos? Je pense qu'il y en a dans le lot. J'ai pas encore fait de sondage, j'ai pas encore été à la pêche aux informations à ce niveau-là. J'essaye de pas m'embrouiller l'esprit avec ça. Pour l'instant, je suis vraiment dans un objectif de production de contenu, de charbonnage, comme je dirais, où je charbonne, allez, j'envoie du contenu, et je grimpe de l'audience, je grimpe de l'audimat, on va dire. Je remplis mes listes d'emails par des personnes qui sont intéressées par avoir du contenu un petit peu plus exclusif, etc., et on verra où ça nous mène. Et pour l'instant, voilà, je suis vraiment dans cet objectif d'envoyer du contenu, de développer l'audience. Donc un peu moins, je sais pas trop, je peux pas trop te dire exactement qui est l'auditeur type. En ce qui concerne l'avatar, j'ai débuté donc par mon avatar, c'était le pratiquant de musculation qui voulait en apprendre plus, qui voulait avoir plus de réflexions sur comment s'entraîner, comment avoir moins de douleurs, se débarrasser de ses blessures. Si tu écoutes les premiers épisodes, c'est vraiment ça, mon intro, je disais ça, vous voulez vous débarrasser de vos blessures, vous voulez mieux vous entraîner. Je le dis toujours un petit peu, mais je le nuance avec d'autres sujets maintenant. Donc c'était vraiment ça, mon objectif, c'était celui qui voulait s'entraîner, mais qui avait une douleur quelque part et qui cherchait à s'en occuper. Bon, tu te rends compte que tu fais assez vite le tour et que c'est pas si intéressant et que c'est une cible trop petite en fait pour développer quelque chose de conséquent. D'une manière générale, c'est pas une cible trop petite. Des personnes qui s'entraînent et qui ont des douleurs d'épaule, de dos, n'importe. Il y en a des tonnes, ça, c'est évident. Mais qui vont découvrir et écouter un podcast, ça se réduit énormément, tu vois. Et c'est comme si je te disais, ceux qui ont des douleurs d'épaule parce qu'ils pratiquent la musculation. Combien vont écouter le podcast? Ça va prendre des années à faire développer cette niche minuscule, tu vois. Peut-être que sur YouTube, ça serait plus rapide, mais sur un podcast. Donc, il m'a fallu penser un petit peu plus large. Et aujourd'hui, ma cible, elle est sur tous les sportifs, en tout cas ceux qui sont passionnés d'entraînement et de thérapie aussi, et en apprendre plus sur le corps humain, tu vois. J'ai un petit peu décalé le message qui est... Sur certaines introductions, je le dis, apprenez à mieux comprendre la mécanique du corps. Il y a beaucoup de ça aussi dans ce que je dis, parce qu'il y a la mécanique physique, il y a la mécanique mentale. On n'est pas que pour faire du muscle et que pousser, tu vois. On n'est pas que là pour ça. Donc le message, il change. Et j'ai envie de plus en plus de développer aussi un avatar, ou en tout cas des sujets autour de la thérapie, mais... le développement de la thérapie. Tiens, un peu plus le côté, c'est pas terrible de dire ça, tu vois, mais c'est le business du thérapeute. Mais quand je dis le business du thérapeute, c'est pas faire de la thune fois la thune. Si tu veux faire de la thune, il n'y a pas de problème, chacun fait ce qu'il veut, mais tu sais, en France, on a un peu de mal avec ça. Ouais, santé, ouais. Et argent, c'est un truc, ça plaît
argent
pas.
Argent tout court,
bon,
en France, on a du mal, c'est super tabou. La réussite, ouais. L'argent, c'est un gros problème. Alors, on aime bien en avoir, mais on n'aime pas le montrer, et surtout, on n'aime pas quand les autres le montrent. Je pense que c'est une approche plutôt nord-américaine, et comme tu es au Canada, bah, ça tombe très bien, mais effectivement, ouais. Je pense qu'en France, on a un problème là-dessus.
Là, non, mais tu as tout à fait raison. Ce qui fait que je prends encore un peu tes pincettes, je l'ai dit dans un des derniers épisodes avec Olivier Bollier, j'ai dit c'est un truc qui me brûle les lèvres là, de parler un peu de développement de clientèle, de patientèle, de comment faire parler de soi, comment communiquer. J'ai envie d'en parler de plus en plus et donc je suis en plein questionnement, on va dire, sur est-ce que je vais bientôt switcher mon avatar, à savoir jusqu'à maintenant j'étais sur le consommateur qui veut améliorer la compréhension de la mécanique du corps, améliorer ses entraînements, l'adapter à sa morphologie, etc. etc. Petit à petit, peut-être à le bouger sur le thérapeute, celui qui a un métier soit dans la remise en forme, soit la santé, et qui voudrait améliorer ses connaissances peut-être sur différentes approches, tu vois, et aussi avoir des moyens de développer un peu plus sa notoriété, son expertise, et faire plus de thunes, hein, au final. Enfin, je veux dire, avoir plus de personnes à traiter ou à coacher, et puis être plus tranquille pour payer ses factures, être plus tranquille pour vivre, et pour peut-être développer des projets connexes comme ça, tu vois. Donc, je suis en pleine réflexion, je sais que c'est deux avatars qui sont complètement différents. J'ai la grande ambition en ce moment de penser que je peux peut-être encore concilier les deux, tu vois, sur des épisodes qui vont peut-être retrouver les deux. Mais je me pose des questions. Et je ne sais pas si je vais devoir choisir l'un ou l'autre absolument à un moment donné.
Alors pour nos auditeurs et nos auditrices francophones, on va traduire un peu. C'est pas pour faire du business, c'est pour se faire plus plaisir dans l'exercice de sa passion et de son métier, n'est-ce pas?
Mais tu sais que moi, je vais être hyper honnête dans tout ce que je dis. Je vais pas parler en disant n'importe quoi. Non, c'est pour faire de la thune. C'est pour faire ça. Non, mais oui, pour être plus en adéquation. Mais ça, c'est un message marketing. Plus à être en adéquation avec sa vocation, etc. Non, c'est écoute, t'as pas de client, t'as pas de patientèle. Tu veux développer ça parce qu'à un moment donné, t'as envie de partir en vacances parce que t'as envie de t'offrir une belle bagnole. Non, mais c'est pas, pour moi, c'est pas un problème. Quoi.
Mais c'est super antinomique par rapport à ce que tu me disais au début de cet épisode. Et d'ailleurs, on en est plus à l'épisode. Là, on a dépassé l'heure. Là, c'est juste une conversation entre potes. T'as un café, j'ai un verre de vin, on s'éclate.
J'ai fini mon café.
C'est quand même un peu antinomique parce que tu nous disais que à l'heure actuelle, t'as pas l'impression que ton podcast aide forcément ton exercice d'ostéo, ou inversement que ton exercice d'ostéo aide à faire connaître ton podcast, et que c'est pas forcément ce que tu recherches, au contraire, ce que tu recherches plutôt des auditeurs qui te découvrent, ouais. Et qui viennent te voir après, et après l'échange, la conversation, même la thérapie est totalement différente, puisqu'ils savent déjà plus ou moins vers quelle approche tu vas te tourner, et d'un autre côté tu nous dis, bah ouais, mais moi j'aimerais quand même bien développer un peu plus mon activité et me servir aussi de mon podcast.
Parce qu'en fait, je vois ce que tu veux dire, et effectivement, quand on met les deux choses en parallèle, on peut se dire, c'est bizarre, on dirait qu'il y a deux discours. En fait, c'est juste que je vois les choses, je ne vois pas les choses liées directement. C'est-à-dire que pour moi, c'est un bonus. Si les gens découvrent le podcast et qu'ils viennent en consultation, c'est super, parce que moi, je vais faire des consultations qui vont être super agréables, qui vont me permettre, moi, de m'éclater. Tu sais, c'est de l'égoïsme, hein. c'est une sorte d'égoïsme, c'est que moi, je vais m'éclater dans la consultation, et puis la personne va s'éclater aussi dans ce qu'elle va recevoir, dans le traitement qui va être, qualitatif. Mais je ne fais pas le podcast pour développer ma clientèle, je ne fais pas le podcast, je fais en tout cas en présentiel, en rendez-vous directement. J'ai des ambitions avec le podcast, j'ai des envies, des projets, tu vois, j'ai envie de faire grossir une audience, j'ai envie de développer ça, mais c'est pas dans le but en fait pour avoir des patients. Parce que si tu veux, moi, ça serait quand même débile quand on y réfléchit, parce que j'ai un podcast qui est essentiellement écouté en France, avec des invités qui très souvent sont en France. Non, mais moi je suis à Montréal, donc si tu veux, ça serait pas logique de dire moi je fais le podcast pour remplir mon cabinet. Non, bah non, parce que sinon j'aurais peut-être pas fait un podcast, j'aurais fait des vidéos et je les aurais propagées sur Montréal. Chose qu'on fait déjà d'ailleurs dans une des cliniques. Donc c'est pour ça que tout ça, voilà, tu vois, l'univers du développement, etc. C'est non, le podcast. Si tu veux faire un podcast, si un ostéo veut faire un podcast pour avoir des rendez-vous, il va falloir qu'il attende longtemps, il va falloir qu'il fasse beaucoup d'épisodes, et je ne l'ai pas fait dans ce but-là. Je l'ai fait pour me créer une audience. Cette audience, je vais pouvoir un jour la monétiser. Ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça, tu vois. Il monétise une audience, mais si les gens qui écoutent, ils connaissent un peu le marketing, il n'y a rien de péjoratif sur ça, en fait. C'est juste que tu apportes de la valeur. Si les gens ils veulent acheter de la valeur que tu leur proposes, voilà, tu monétises. Je veux dire, tu as fait du mal à personne. Mais au contraire, je fais ça pour développer une audience, tu vois, pour développer une audience et ensuite pour proposer des choses, peut-être, qui auront de la valeur et que certaines personnes vont vouloir consommer parce qu'ils y trouveront un certain intérêt. Mais je ne le fais pas pour développer ma clientèle, ma patientèle en rendez-vous. Donc, en fait, si tu veux, si les personnes qui m'écoutent viennent me voir, c'est super, on passe un bon moment, mais c'est pas dans l'objectif, quoi. C'est pas l'objectif premier, c'est du plus.
Tu nous dis que tu te poses des questions sur switcher un peu ton avatar, ta persona, ton auditeur, ton auditrice cible, et pourquoi pas créer deux podcasts ou garder biomécanique, mais avec une sorte de hors-série qui serait attachée à biomécanique.
Le temps. Actuellement, je pense l'optimisation de mon temps entre les rendez-vous, entre le podcast, entre d'autres projets que j'ai en parallèle qui sont dans des secteurs complètement différents et que je ne vais pas nécessairement parler là aujourd'hui. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut un petit peu choisir passer combat, mais il faut essayer de mettre un peu les trucs dans les bonnes cases et me rajouter un autre podcast ou peut-être une autre façon de faire, un autre thème, avec essayer de trouver moyen de séparer les trucs. Pour l'instant, j'ai pas, voilà, j'envoie les épisodes, j'essaie de faire quelque chose qui est hyper. Bon, je suis très procédure, moi. Tout à l'heure, tu me parlais des notes d'épisodes, j'ai oublié d'y répondre, mais moi, mes notes d'épisodes, elles sont toutes templatées. Je remplis des trous en fonction des personnes que j'ai, et ensuite, j'utilise Zapier pour me faire une automatisation de tout ce qui sort, tu vois. J'essaie d'optimiser au mieux mon temps. Peut-être que tu me poseras des questions après dessus si ça t'intéresse, mais ce qui fait que voilà, faire un deuxième podcast, non, j'ai pas le temps et pas le truc pour l'instant,
pas la motivation,
pas la motivation. Je me dis voilà, peut-être qu'on verra plus tard, mais pour l'instant,
ok. Donc je suis mauvais élève dans l'histoire, parce que moi j'en ai déjà deux, peut-être un troisième, un quatrième, enfin on verra.
Non, mais c'est génial, tu t'organises hyper bien, tu dois t'organiser. Ça doit être
des moments, je pars en vrille. Là, j'ai le quatrième enfant qui va arriver. Ça commence à devenir compliqué de faire les montages. Les enregistrements, c'est toujours un bon moment. C'est toujours un super plaisir. Mais donc, tu arrives toujours à trouver le temps. Mais effectivement, le montage, c'est super chronophage. Et puis après, faire grossir la communauté, faire grandir la communauté, communiquer sur les réseaux sociaux, ça aussi, c'est assez chronophage. Et c'est souvent des tâches que moi, de mon côté, je laisse de côté. Mais justement, toi, comment est-ce que tu gères ta communauté? Tu disais que tu savais pas trop qui était ton auditrice, ton auditeur phare, cible. Est-ce que tu as des interactions avec ta communauté? Comment est-ce que tu la fais grandir? Comment est-ce que tu l'animes?
Alors moi, je tiens une mailing list. C'est très grossier de dire ça comme ça, mais en gros, c'est juste mes contacts. Moi, j'invite les gens qui écoutent le podcast à s'inscrire à ma lettre biomécanique, qui est Donc, mes mails privés, en fait, j'envoie la lettre biomécanique une fois par mois où j'essaye d'aborder des sujets autour des grands thèmes que j'ai dans le podcast, mais en général, tu vois, la thérapie, les douleurs, les optimisations de l'entraînement, le lifestyle aussi. J'essaye de faire un petit mash-up là de tout ça dans mes lettres. C'est contenu un petit peu plus exclusif, tu vois. J'essaie de garder... le contact avec les gens inscrits à la lettre. J'envoie aussi tous les épisodes par mail. Dès qu'il y a un nouvel épisode qui sort, donc Zapier se charge de me faire une jolie automatisation et d'envoyer tout ça à ma mailing list. Comment je garde le contact? Alors, le problème, c'est ça, c'est que j'ai tout automatisé. Pour l'instant, j'ai pas un gros contact. Je communique via la lettre. J'ai des retours via soit directement par message, on me donne les retours, soit sur les réseaux, les gens qui commentent sur les publications. Tu vois, j'ai ouvert un compte Instagram uniquement pour le Biomécanique Podcast. Et pareil, je poste la photo et le podcast de chaque invité à chaque fois que ça sort. Et. Voilà, je sais pas trop comment répondre à cette question. Je suis pas sûr d'être un community manager absolument formidable aujourd'hui. C'est pas trop dans mon objectif. Voilà, je te dis, l'objectif que j'ai, moi, c'est envoyer des épisodes et développer l'audience pour l'instant.
Et justement, en parlant d'audience, est-ce que tu veux nous en dire plus sur tes stats? Un nombre moyen d'écoutes par semaine, par mois, par an?
Ouais, alors je crois que j'ai regardé il y a pas si longtemps. Je dois être à toute plateforme confondue. Je suis à un peu plus de 30 000 écoutes.
Depuis un an.
Ouais, depuis le premier épisode, il y a 30 épisodes, le 31 sort la semaine prochaine. Donc j'ai un peu moins, j'ai passé les 1000 écoutes là, par mois. Alors je regarde vaguement les statistiques, parce que j'ai un peu du mal à les analyser encore, et que je trouve ça encore trop faible pour y prêter attention, en fait. Tu vois, je trouve ça encore trop faible pour prêter attention aux statistiques. Le seul truc que tu vois, c'est la courbe, elle fait que monter. L'évolution, donc oui, ben, l'évolution, elle est en constante augmentation, mais c'est aussi du fait que depuis que je suis passé un épisode par semaine, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. C'est indéniable, je veux dire, tout le monde le dit, c'est pas qu'une bêtise, quoi. Tous ceux qui font du podcast ou même qui sortent des vidéos, si vous le faites une fois par semaine, c'est incroyable, l'attraction que vous avez, parce que ça fidélise, mais en plus de ça, ça augmente la capacité à se faire connaître. C'est assez radical. Donc non, mes stats, elles sont pas énormes. Je sais que c'est encore un podcast débutant. Alors c'est pas le début du quand tu postes un épisode et que t'as 4 écoutes, mais c'est vraiment le début. Donc c'est pour ça que je m'occupe pas trop ni des insights, ni des stats précises, ni de l'audience, parce que moi j'ai qu'un but pour l'instant. J'ai un focus, je veux pas m'éparpiller. C'est monter l'audience, tu vois. Et monter, je sais pas jusqu'à que ça peut monter, mais bon. Avec ces stats-là, je me dis c'est pas intéressant que j'aille faire des moyennes ou des sondages sur qui écoute exactement. Je pense pas que ça soit représentatif encore, tu vois.
Ça pourrait être représentatif, ça pourrait aussi t'aider à t'orienter, enfin orienter ton contenu ou à orienter tes interviews. Mais d'un autre côté, ce qui pourrait être moins bien et ce que je trouve mieux dans ton approche, c'est que justement tu te concentres sur ta mission, entre guillemets, sur l'objectif que tu t'es fixé, c'est aller interviewer les personnes qui te semblent inspirantes, qui te semblent correspondre à ce que toi tu veux savoir, ce que toi tu veux apprendre. Tu fais ta veille en fait et du coup, c'est la mission que tu t'es fixé et ne pas regarder les stats te permet de ne pas te détourner de tout ça et je pense que c'est une très bonne approche.
Et à la limite, tu sais quoi? La seule stat que je vais peut-être regarder, c'est grosso merdo le nombre d'écoutes à peu près que je fais sur l'épisode en question et je trouve que c'est le meilleur feedback qu'il peut y avoir, c'est au-delà de demander aux gens qu'est-ce qu'ils aiment, parce que et surtout, les gens disent toujours que c'est bien ou pas bien, enfin bon, peu importe, mais je préfère regarder ce que font les gens plutôt que les écouter. Ça, c'est un adage qu'on a beaucoup dans un sujet parallèle qui est la séduction, qui n'a absolument rien à voir avec la mécanique du corps, à savoir que c'est vrai, mais c'est toujours plus intéressant de regarder et de voir ce qu'une fille fait. Ben là, c'est pareil. Moi, je préfère regarder ce qui se passe plutôt qu'écouter les gens dans un premier temps. C'est-à-dire que est-ce que l'épisode fait des écoutes? Est-ce que il est intéressant? Quand je fais un épisode, par exemple, avec Yann Paquette sur comment gérer une clinique de physiothérapie. En pleine crise de coronavirus, qui est beaucoup moins centré sur le sportif et mais beaucoup plus sur le business justement de la santé, enfin le business. c'est un gros mot, mais en tout cas le développement d'une clinique, quand je vois les écoutes, eh ben, je trouve que c'est beaucoup plus parlant qu'un épisode avec un athlète connu. Alors après, il faut faire attention parce qu'il est moins connu, donc forcément, il y a moins de traction sur l'épisode, les gens sont peut-être moins curieux d'écouter, donc ça fait peut-être moins de vues, enfin moins d'écoutes. C'est pour ça que j'essaie des fois de jouer avec le titre pour rattraper un peu ce truc-là quand la personne n'est pas connue, d'avoir un titre qui appelle. Mais ça, je trouve que c'est beaucoup plus parlant plutôt que de demander l'avis. Voilà, je préfère regarder ce qu'ils font et essayer d'avoir un petit feedback sur ça. Et je le fais sur les écoutes plus qu'autre chose pour l'instant.
J'aurai encore des milliers de questions, mais faut qu'on avance. Quelles sont tes influences? Où est-ce que tu as des podcasts emblématiques que tu suis absolument et que tu ne saurais laisser de côté? Tu nous as parlé de Bart, tu nous as parlé de Rudy Koya. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Alors, moi, mon podcast, je pense, favori de tous les temps sera peut-être probablement le Nomade Digital de Stan Leloup et je sais plus qui là comment il s'appelait déjà, Paul Fort je crois. Je sais pas si tu connais Nomade Digital.
Enfin, je connais pas le podcast en lui-même, mais j'écoute un peu Stan Leloup et donc il en parle souvent.
Ouais, bah alors ça c'est peut-être le premier podcast que j'ai écouté toute la série, j'ai trouvé ça fascinant, j'ai adoré. Ensuite Marketing Mania. Franchement, c'est presque le top.
Forcément.
Il a des invités incroyables. Et puis, ces épisodes sont vraiment génialissimes. Et alors, il s'y est remis là, depuis quelques mois à sortir un épisode régulier. Donc, je suis très content parce qu'il a passé un bon temps à ne pas sortir d'épisode. Et je me demandais pourquoi. Enfin, j'espérais qu'il en ressorte. Il a passé beaucoup de temps sur ses vidéos. Donc, Stan Leloup, j'adore. Qu'est-ce que j'écoute encore? Alors, j'ai découvert sur le tard, et c'est bizarre parce que c'est un des plus connus, c'est Génération Do It Yourself de
Mathieu Stéphanie, évidemment.
Et Mathieu Stéphanie, ben j'adore ce qu'il fait, quoi. C'est incroyable. Alors, sa voix, c'est vrai qu'il a une voix très particulière, très suave, très, très grave, donc c'est très agréable à écouter.
Très radio, très podcast.
Ouais, il a une authenticité, je trouve, une humanité dans la manière dont il aborde des sujets. Je le trouve très généreux, surtout avec des invités comme récemment Yannick Noah, qui est un épisode qui était très intéressant. C'est peut-être pas celui que j'ai préféré, mais j'adore sa façon de parler, d'aborder les trucs. Moi, ça m'influence beaucoup. Après, attends, je vais pas aller regarder. Son deuxième podcast, La Martingale, je n'en loupe pas un seul parce qu'en fait, sur des podcasts sur les finances et sur les investissements, il y en a très peu. Voilà, hein, ensuite, on va dire que c'est pas mal ça, quoi. C'est pas mal ça. Après, j'en ai d'autres. Ouais, bah, j'ai le Surtout la Santé d'Étienne Bulidon. J'ai podcast Nutrimuscle, un peu de sport. J'ai beaucoup écouté de marketing, tu vois. J'ai beaucoup écouté du marketing, du business, mais voilà, quoi. J'ai à peu près fait le tour. On va dire que mes deux plus grosses influences, ça va être Marketing Mania et Génération Do It Yourself. Et la Martingale, évidemment.
Et donc, pas forcément du podcast sportif?
Alors, j'écoute les Superphysique Podcast, parce que, tu sais, c'est une habitude, et puis c'est toujours marrant, en fait, d'écouter Rudy et Fabrice. C'est super agréable, donc c'est devenu presque une habitude d'écouter ça à chaque fois que ça sort. On va dire que ça m'influence peut-être un peu moins dans mon truc. Et sinon, en termes de sport, alors, Bart, moi, j'adore ce qu'il fait, mais c'est moins... Les sports un peu endurance, c'est moins un truc qui m'attire. Même si j'ai écouté quand même quelques-unes de ces interviews, il y en a qui sont incroyables. Alors, il y a le podcast de Fitness Smith aussi. Fitness Smith Théo, qui est bien, que pareil, j'ai pris l'habitude d'écouter une fois par semaine. Mais j'ai pas de gros coup de cœur. Gros coup de cœur, en tout cas, j'ai pas un podcast sport que j'écoute. Je sais pas. Ou peut-être j'essaie aussi d'aller voir d'autres thèmes qui se font. J'ai fait le tour. Hein, malheureusement, j'ai pas écouté Nakan, tu vois.
Ah bah voilà. Écoute, je t'enverrai les liens. Et pour nos auditrices et nos auditeurs, ouais. Bah, c'est podcast.nakan.ch ou vous pouvez aussi aller écouter vestiaire@.org. Ça, c'est les deux podcasts que j'anime sur le sport. Et tu me diras ce que t'en penses. Sur Vestiaire, en fait, je m'attelle à décortiquer les mécanismes que mettent en place les sportives et les sportifs pour financer leur carrière et la résilience dont ils font preuve. Et puis sur Nakan, on en a parlé tout à l'heure, c'est plutôt sport connecté et puis endurance appliquée principalement au triathlon et aux trois sports du triathlon.
Mais c'est pas que ça m'intéresse, je pense, enfin c'est forcément hyper intéressant et je pense que je vais adorer. J'ai pas trouvé le, parce que j'ai beaucoup de podcasts en fait, tu sais, je sais pas que ceux qui écoutent les podcasts, mais j'en ai des tonnes. Et Et il y a des fois, je dis, oh putain, il faudrait que j'écoute ce podcast, mais est-ce que je vais avoir le temps? Est-ce que j'ai assez d'heures dans la journée pour écouter? Alors bon, je suis obligé de faire des choix, et malheureusement, je reste sur mes trucs, les trucs classiques que j'écoutais depuis des années, en fait, et j'essaie de rester dessus et de pas trop aller voir ailleurs. C'est un peu mon... je sais pas, voilà.
Et justement, comment est-ce que tu consommes du podcast? Parce qu'il y en a qui consomment en courant, en faisant la vaisselle, en faisant ménage. Toi, c'est comment?
Moi, c'est tous les temps morts. Tous les temps morts où, en fait, mon esprit n'a pas besoin d'être focus. Donc, les transports, beaucoup. Même si, bon, je suis situé à un endroit où je fais pas beaucoup de transports. Mais on va dire que tous les trajets morts, c'est-à-dire, je sais pas, tu vas faire ton épicerie, tu vas faire tes courses, tu vas jusqu'au métro, tu fais... Bon, ici, t'as pas intérêt à écouter de la musique, avoir un casque pendant que tu fais du vélo. Donc, tu peux prendre une amende. Mais la vaisselle, pendant que je fais la bouffe, tous les temps morts, en fait, qui sont très, très, pas ritualisés, mais où voilà, le corps fonctionne de manière un petit peu automatique, j'écoute les podcasts.
Bon, moi aussi, c'est plutôt sur les temps morts. Après, pendant les courses, j'y arrive pas. J'ai besoin de réfléchir.
Donc, oui, mais alors c'est ça, c'est qu'une fois que tu arrives dans l'épicerie et que tu dois commencer à réfléchir à ce qui te manque, etc., là tu coupes, t'éteins et t'enlèves le casque. Mais tout le reste, j'écoute des épisodes.
Après avoir lancé les premiers épisodes de Nakan, j'avais commencé à benchmarker un peu le podcast sportif francophone, notamment parce que j'avais comme ambition d'essayer de créer un peu un podcast maker, mais orienté sport. Et j'avais été très étonné de me rendre compte qu'il y avait beaucoup de podcasts sportifs francophones québécois. J'étais arrivé sur un benchmark l'année dernière, en juin 2019, j'avais dû recenser à peu près 600 podcasts, parmi lesquels 200 qui étaient français et le reste qui était plutôt québécois. Toi, quelle vision tu aurais, si tu en as une, du podcast francophone et peut-être plus particulièrement du podcast sportif francophone?
Tu sais, c'est toujours des avis personnels qui sont, je pense, un peu biaisés. Je pense qu'il y en a de plus en plus. Tu vois, par exemple, moi, j'ai participé à un podcast qui est sorti il n'y a pas si longtemps, West Podcast, qui est un podcast CrossFit, qui à ses débuts, j'étais le 10e invité. Rudy Koya est passé aussi sur le West Podcast juste avant moi. Donc je pense qu'à cette image-là, il y en a de plus en plus qui sortent. Est-ce que j'ai un avis sur les Québécois par rapport aux podcasts français? Non, je sais que moi il y en a un que j'écoute que j'écoute un peu plus régulièrement, c'est un des invités que j'avais eu, le show à Félix Daigle, qui je trouve était très intéressant, la plupart du temps c'est très intéressant. J'en ai écouté un autre qui était Quantum Podcast, qui est beaucoup peut-être plus connu, plus écouté, mais je me suis un peu lassé, peut-être, il y avait des sujets qui... Et puis, il y en a trop à écouter, à un moment donné, t'es obligé de faire un choix, tu vois. Mais j'ai pas trop un avis sur Québec-France, par contre, peut-être qu'il y en a de plus en plus, effectivement, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, enfin, en termes de pro, alors je dis pas que le podcast doit être hyper pro, mais quelque chose qui est quand même assez structuré, avec un bon son et une bonne production, je trouve pas qu'il y en ait beaucoup. Et tu vois, bon, je sais pas s'il écoutera Rudy, tu vois, mais j'adore Rudy Koya, j'adore son podcast Super Physique, moi je me marre, je l'écoute tout le temps, je crois que j'ai pas raté un épisode depuis je sais pas combien de temps, tu vois. Mais par contre, je trouve ça hyper dommage. Il a un son pourri. Il a un son pourri. Non, mais c'est bon, il va pas mal le prendre. Mais quand il est sur Leadercast, il a un son. Je sais pas ce que c'est son micro, mais sur Superphysique, je pense qu'ils font par Skype et ils enregistrent la conversation sur Skype et ils ont un son pourri. Et je trouve ça hyper dommage parce que c'est un truc artisanal. Alors peut-être que c'est un choix de vouloir faire quelque chose très artisanal entre potes. Mais je trouve ça tellement dommage parce qu'on n'est pas dans la catégorie... C'est un peu comme si on perdait la catégorie des grands pour le podcast à la bonne franquette. Le podcast à la bonne franquette, c'est bien, mais je trouve que ça tire pas le truc vers le haut. Après, c'est juste mon avis, ça n'engage que moi, mais un mec comme Mathieu Stéphanie, il a un super son, il a profiné le truc. Quand tu l'écoutes, tu dis, là, on est sur le top du top.
Ouais.
Même si c'est pas forcément plus préparé qu'un super physique, c'est pas forcément plus qualitatif, ça, c'est chacun ses goûts, mais l'écoute du podcast, avec une intro qui est bien ficelée, avec une fin, avec un son qui est qualitatif, sans non plus être dans un truc, je veux dire, t'es pas obligé d'avoir un micro à 4000 balles, quoi, tu vois. Mais quand même, tu te dis, bon, mais là, on est sur quelque chose d'hyper qualitatif. C'est vachement bien, tu vois. Et ça, j'ai l'impression qu'il y en a... Voilà, tu vois, plus la qualité va monter, c'est un peu comme sur YouTube. Il y a quelques années, bon, c'était pris au téléphone. Maintenant, si tu veux faire du contenu qualitatif et être un peu considéré sur YouTube, t'es obligé d'envoyer la qualité. Et c'est ce qui fait que ça tire vers le haut, quoi. Ça tire vers le haut. Tu vois, bon, j'ai pas d'exemple précis, mais tu vois des mecs qui ont beaucoup d'abonnés. Bon, pas tous, évidemment, mais ils ont quand même, ils ont du matos, c'est préparé. Putain, c'est pro. Tu vois les vidéos de Stan. Bon, à un moment donné, tu te dis, on est quand même sur un truc hyper solide, quoi. Et ça, ça tire tout le monde vers le haut. Et je trouve que c'est peut-être ce qui manque encore sur le podcast francophone.
Ouais, ça tire tout le monde vers le haut, mais justement, ça met quand même pas mal de barrières à l'entrée. Et notamment sur le podcast. Il n'a jamais été aussi facile de créer un podcast. Moi, j'ai commencé en 2014 avec Nip Sport et Place au Sport. On bidouillait un peu. En plus, on s'était dit qu'en fait, on allait faire des lives YouTube et que ce serait ces lives YouTube là que l'on mettrait en podcast. Il y avait du setup dans tous les sens. Le micro qu'il fallait brancher. Tu branchais mal le micro. Finalement, ça prenait le son de l'ordinateur et pas le son du micro. J'avais aussi un Blue Yeti. Enfin, c'était vraiment de la bidouille pour essayer d'avoir un son à peu près propre. Maintenant, alors pour ne citer que, mais tu prends un Encore qui te propose une plateforme d'hébergement de podcast, qui te propose une application. Et dans l'application, tu as même un dictaphone, tu as même l'enregistreur. Tu peux même avoir plusieurs pistes si tu enregistres directement sur le navigateur et que tu fais venir tes invités que tu invites tes invités à distance à se connecter à un lien, etc. Il n'a jamais été aussi simple de créer un podcast, mais comme tu l'as dit, le problème, ça va peut-être être au niveau du son, au niveau de la qualité du son, parce que enregistrer avec ça, avec des écouteurs d'iPhone, ça n'a pas la même qualité que quand tu enregistres avec un micro externe ou un enregistreur et qu'après
non,
tu reprends la piste, etc.
Non, mais,
et du coup,
mais,
ça te crée quand même pas mal de barrières à l'entrée.
Mais ouais, mais alors, moi, je trouve pas tellement, quoi. Je trouve pas tellement que ça crée des barrières. Ou alors, c'est des barrières. Hey, si tu passes pas à travers ces barrières, bon, je veux dire, ça va être difficile de faire quelque chose dans ta vie quand même, parce que. Je trouve que c'est des barrières qui sont quand même, je veux dire, on parle de 10 ans en arrière, là je veux bien qu'il y ait des barrières, tu vois, pour créer une bonne vidéo, mais aujourd'hui, ou un audio, ou peu importe, tu vois, mais aujourd'hui, attends, regarde ce qu'on fait en ce moment, on est sur Skype, on enregistre chacun de notre côté, et comme ça on va avoir un son qui va être super. Non mais on a contourné le problème finalement dans un sens... C'est loin de moi l'envie de donner des conseils à Rudy ou sur parce que je dis pas que mon podcast a une meilleure qualité audio, mais par exemple moi je pense que ça serait super qu'ils se fassent un Skype mais qu'ils s'enregistrent chacun de leur côté. Alors c'est sûr, ça prend du temps avec le montage, etc., mais bon, on va pas parler de Superphysique, mais par exemple quelqu'un qui démarrerait qui voudrait faire un podcast, il s'enregistre sur le dictaphone et il y a Google maintenant. Il peut très bien essayer d'arranger son son. Il y en a pour 30 secondes. Audacity, c'est gratuit. C'est disponible sur toutes les Mac, Windows, tout ce que tu veux. Tu as des tutos partout. Si tu parles pas en anglais, tu as même des tutos français pour juste améliorer le son, faire quelque chose de normaliser un petit peu le truc. Et ensuite, comme tu disais, t'as Encore qui te permet de poster, d'héberger tes fichiers gratuitement. Tu as tout écrit, tu as tout fait. Donc, ouais, je trouve ça un peu dommage d'avoir une qualité. C'est pas qu'une question de prix, d'avoir un micro qui coûte hyper cher, quoi. C'est un petit peu de bricolage et puis tu peux faire un truc super quand même, j'ai l'impression.
Bah, je te confirme, le son de ton podcast est excellent, donc ça va. tu bricoles bien.
Oui,
pour
non
pas
mais
cher.
Alors. Oui, non mais j'ai pas un son de fou. C'est pas ça qui va faire. Le contenu sera toujours le plus important. Mais à un moment donné, c'est un peu se tirer une balle dans les pattes, de pas essayer d'améliorer juste en faisant quelques efforts pour améliorer son son, qui fait que ça va paraître beaucoup plus pro et que possiblement ça va améliorer le podcast. Enfin, tu sais que tu vas aider à améliorer l'idée du podcast en France, en fait. Parce que si chacun met un petit peu, essaie d'améliorer la qualité, tout le monde se tire un peu vers le haut. Et puis il y a la concurrence aussi. Ah, je vais essayer de faire un peu mieux que ça, parce que le concurrent, il a un super son, et puis moi aussi, j'aimerais avoir un super son. Puis finalement, ça devient de mieux en mieux. Et il y a de plus en plus qui écoutent. Et ça a été comme ça avec YouTube. Hein. Ça a démarré, tout le monde s'enregistrait un peu à l'arrache. Tu regardes des vidéos des années 2000. C'est dégueulasse avec un son pourri, et puis au fur et à mesure il y a de plus en plus de gens, les gens ils essaient de faire de plus en plus de qualité, que ça soit sur le contenu écrit ou alors que ça soit sur la vidéo, l'appareil. Et puis maintenant, si tu veux te lancer sur YouTube, eh ben c'est sûr qu'il faut peut-être un peu plus investir et être un peu plus créatif, mais c'est ce qui fait que les gens sont sur YouTube aussi. Tu vois, les auditeurs, ça fait des millions de vues, ce que ne fait pas encore le podcast. Et plus ça va se professionnaliser, plus les gens vont mettre un peu de... Vont y aller un peu comme sur une plateforme un peu sérieuse, plus je pense que ça va se développer.
Justement, en parlant de professionnalisation, est-ce que tu crois, on a très rapidement parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu crois à l'avenir de la monétisation de l'audience, de la monétisation du podcast, et quelle piste t'envisagerais, toi ? Je sais pas, on parle souvent de sponsoriser des épisodes ou de faire du host read. Donc pour ceux qui connaissent pas le host read, on a un sponsor qui paye pour un épisode et pour qu'on diffuse sa publicité, donc c'est nous qui le lisons, ou alors c'est l'annonceur qui le lit. Est-ce que tu crois à ces choses-là, ou est-ce que tu vois d'autres solutions de monétiser ton contenu, ce que tu fais en fait?
Alors par définition, moi je suis très indépendant, hein, par mon métier, par la façon dont je me comporte, je me sens indépendant. Donc dépendre d'une plateforme publicitaire pour monétiser mon truc, c'est quelque chose qui me plaît pas énormément. L'idée me plaît pas. C'est un peu comme sur YouTube, on le voit bien, faire des millions de vues pour gagner des clopinettes, c'est un peu le truc. Et, non mais oui, bon, j'exagère un peu très, je connais pas du tout comment on peut monétiser un podcast pour l'instant d'un point de vue sponsor, les publicités, faire passer un truc avant le podcast. Je sais pas combien il te rémunère, à moins de faire des centaines de milliers d'écoutes comme Mathieu Stéphanie avec son super podcast qui fait des annonces, enfin qui a des sponsors. Je pense que là ça a un intérêt. Je pense que moi, la manière dont je monétiserai, c'est je monétiserai par du contenu plus exclusif sur une problématique précise, sur une douleur, sur un peu comme la personne qui vient me voir en rendez-vous, qui écouterait le podcast et qui dirait tiens, je vais voir Jérôme en rendez-vous en ostéo, en fait. C'est-à-dire que il paye pour un service rendu. Et moi, je serais plus dans cet objectif-là, c'est de monétiser. Pas par de la publicité, vendre de la publicité, mais vendre mes services. Alors, évidemment, les idées sont là, elles sont dans ma tête, elles sont en objectif, elles sont pas dans l'immédiat, puisque dans l'immédiat, c'est grossir l'audience. Mais je pense que le meilleur moyen de monétiser un contenu, que ça soit un podcast, une vidéo, peu importe, c'est juste de, en fait, avoir un service payant. Et je pense que c'est beaucoup plus... c'est plus rentable déjà, et tu dépends moins d'une source externe, à savoir la publicité par exemple.
Peut-être aussi que pour ton audience, c'est plus éthique, parce que tu les abreuves pas d'une publicité sur laquelle t'as pas le contrôle, ou même du host read, tu te dis que finalement, c'est peut-être pas correct, ou c'est peut-être pas fair pour ton audience, alors que là, si c'est l'audience qui vient vers toi et qui fait cette démarche de t'acheter... du contenu exclusif, alors que ce soit sous la forme de Patreon, de Tipeee ou même de la formation ou ce genre de choses, je pense que c'est une approche plus éthique, justement.
C'est plus éthique et moi, ça me paraît un peu plus aligné avec, de 1, mes valeurs et de 2, mes objectifs. Sachant que faire la promotion d'un produit, il faut quand même y croire, quoi. Il faut y croire, il faut l'avoir testé, il faut l'avoir essayé. Est-ce que c'est si rentable que ça ? Est-ce que, enfin, c'est des business models qui sont différents. Que moi, je me reconnais moins dans le business model du sponsoring, de la publicité. C'est beaucoup moins mon truc. Moi, je préfère garder mon indépendance et vendre des choses auxquelles je crois et que j'ai envie de vendre. Et puis avoir 100% des bénéfices. Non, mais c'est...
Sur les choses auxquelles tu crois, est-ce qu'il y a un invité ou une invitée que tu voudrais absolument recevoir ? Quelqu'un pour qui tu fonds, que tu as vraiment over the top de ta guest list ?
Un peu comme le Zinedine Zidane de Mathieu Stéphanie.
C'est ça, ou comme le...
Je crois que c'est lui.
Comme le Teddy Riner de Barthes.
Ouais. J'ai réfléchi, tu sais que j'ai commencé à réfléchir il n'y a pas si longtemps et en fait je sais pas, je suis pas sûr d'avoir, non mais c'est vrai parce qu'il y a plein de personnes que j'aimerais avoir et en soi j'ai envie de te dire le plus magnifique ça serait d'avoir Arnold Schwarzenegger, tu vois, j'aurais bouclé la boucle, mais non mais voilà, on est sur quelque chose qui n'existera pas, qui ne sera pas possible. De toute façon, et puis au niveau de la langue, ça sera pas possible. Donc, j'ai pas encore trouvé. Je sais que moi, j'ai un objectif à atteindre que j'ai calqué sous. Il me semble, je veux pas parler pour lui, je veux pas dire de bêtises, sous Barthes, qui veut ça aussi, c'est atteindre au moins les 100 épisodes. Et ça, c'est un truc. Parce que pour l'instant, j'y vais à fond, j'envoie du contenu, et jusqu'à maintenant, j'avais pas. J'ai un objectif, mais qui était pas de nombre d'épisodes. Et puis, il y a pas si longtemps, je me suis dit, tiens, tu sais quoi ? on va aller jusqu'à 100, on va se donner ça, on va voir ce que ça donne. Et puis à 100, si je veux arrêter à 100, j'aurai pas de regrets. Parce que peu importe où c'est allé, si j'ai développé une audience, si j'ai pas développé une audience à mon goût, si je change d'intérêt, si j'en ai marre de faire ce podcast et que j'ai d'autres projets en cours, sans, je serai content. Même si ça n'a rien donné financièrement, et si je n'ai pas commencé ça avec le but financièrement, tu vois, mais je serai content. Donc mon objectif, c'est 100, et par contre, mon objectif final d'invité, ben, je n'ai pas encore trouvé. Je vais y réfléchir.
Pour terminer, même si j'ai encore des milliers de questions à te poser, il va falloir qu'on libère un peu notre audience et que je libère mon invité. Et c'est une question que j'aime beaucoup poser sur le podcast Dans les Vestiaires. S'il y avait une chose que tu pouvais faire différemment dans ton histoire de podcasteur ou même dans ton métier d'ostéopathe depuis que tu as eu ton bac, s'il y avait une chose que tu pouvais faire différemment, qu'est-ce que ce serait ? Alors, je précise quand même pour nos auditeurs que ce n'est pas une question préparée. Je ne te l'ai pas envoyée à l'avance. Je te l'ai balancée comme ça. Donc, ça te laisse aussi un peu le temps de réfléchir pendant que je fais mon blabla.
Ouais, mais aucune question n'était préparée. Tu ne m'as pas envoyé en avance. C'est plutôt intéressant parce que c'est, même si des fois, soit je botte un peu en touche, soit je réfléchis, je tourne autour un peu du pot, au moins, je n'ai pas préparé. C'est pas, voilà, c'est authentique.
C'est authentique.
Ça me vient comme ça, tu vois. Voilà. C'est authentique, ça va être le mot. Qu'est-ce que je changerais ? Franchement, je n'en ai aucune idée. Franchement, je ne sais pas du tout. Il faudrait que je me penche sur la question. Il y a sûrement des tas de choses que j'aimerais changer. Certaines où je me dirais que, a priori, j'aimerais changer, mais finalement, c'est très bien comme c'était. En ce qui concerne le podcast, je dirais peut-être un truc à faire plus vite, c'est procédurer le truc et essayer d'augmenter la fréquence, de faire passer ça comme... vraiment améliorer la fréquence plus vite. J'ai mis un peu trop de temps. Alors tu me diras, non, c'est pas beaucoup non plus, mais j'ai mis trop de temps à y croire. Et surtout, peut-être avoir assez confiance et pour ne pas me sentir jugé ou pour ne pas avoir honte, tu sais, pour faire tous ces montages, tous ces coupures, etc. C'est qu'à un moment donné, tu n'es pas sûr de ce que tu vas dire, tu as peur que tu te répètes, qu'il y ait trop de « e », que tu sois jugé comme un mauvais truc, etc. Et en fait, on s'en fout, quoi. Enfin, je trouve qu'on s'en fout, ça n'a pas grande importance. Et peut-être prendre conscience de ça plutôt, que ce n'est pas la petite coupure qui fera une différence énorme. Et que, quitte à ne pas faire trop de montage, et plutôt aller en fréquent, aller en accéléré, faire des épisodes. Il faut pratiquer, plus que être prudent pour éviter certaines erreurs qui en fait n'ont pas réellement d'intérêt. Donc peut-être ça, prendre plus confiance, faire moins de montage, me prendre moins la tête à l'effet que ça va donner, tu vois. C'est la peur de la première fois que tu mets ton podcast, quand même, tu vas être jugé, tu vas parler, etc. Je parle pas très bien, il y a plein d'erreurs de français que je fais, je cherche mes mots. Je suis pas fluide, il y a plein de « e » comme ça quand je parle, et je dis pas que je les changerai jamais, hein. Je vais probablement m'améliorer, il y a peut-être certaines périodes où je vais essayer de travailler là-dessus, faire de l'amélioration, la progression en conscience, c'est délibéré, mais en fait c'est pas grave aussi, tu vois, parce que c'est un peu ma manière de parler, et voilà. Et puis ceux qui sont pas contents, ils écoutent pas, ceux qui aiment pas ma voix ou qui aiment pas la façon dont je parle, ils disent ça, de toute façon. Donc je sais pas si ça répond à la question, mais peut-être un peu prendre plus confiance et créer du contenu, y aller en masse, quoi. C'est surtout ça.
Ok, bah écoute, ouais, ça répond à la question. Et si tu veux une reco pour aller dans ce sens-là, parce que tu disais que tu écoutais pas mal de podcasts autour du marketing, de la création de contenu et autres, tu peux aller regarder du côté de Bertrand Soulier, que j'ai d'ailleurs incité à venir nous faire un petit coucou du côté de Podcast Maker, qui est créateur de contenu depuis des années, qui a découvert le marathon il y a... qui a découvert la course à pied une petite dizaine d'années quand il était obèse, morbide et qui faisait plus de 120 kilos. Et maintenant, il a créé un podcast qui s'appelle Kilomètre 42. Et franchement, si tu veux regarder au niveau de son podcast, votre coach web sur la création de contenu et autres, ça devrait te plaire. Et lui aussi disait justement pendant plus de 2 ans, il avait un podcast qu'il a mis en quotidien parce que son mantra, c'est de dire que pour apprendre à faire quelque chose, il faut pratiquer. Et le meilleur moyen de pratiquer, notamment dans le podcast, c'est d'en faire tous les jours.
C'est vrai. Mais c'est dur à se conscientiser ça parce qu'on est toujours, on est tous plus ou moins d'accord, mais à partir du moment où on passe, où on fait le truc, on se dit ouais mais attends, je vais pas sortir l'épisode maintenant parce que je serai meilleur demain. Mais en fait, c'est parce que tu sors l'épisode maintenant que tu seras meilleur demain. Pas parce que tu penses, parce que tu vas mieux préparer ou je ne sais quoi. Et c'est pas facile. On est tous d'accord pour dire oui, il faut pratiquer, il faut faire, c'est l'expérience qui dit. Mais quand il s'agit d'enregistrer le truc, on a toujours ce frein à se dire attends, je vais peut-être mieux préparer l'interview ou alors je vais peut-être le sortir pas cette semaine, mais la semaine d'après parce que ceci, parce que cela. Et c'est ça la plus grande difficulté.
Ouais, tu seras jamais bon au 100e épisode si t'en as pas fait un premier.
Et c'est ça. Et pourtant, on veut tous être bon dès le premier, mais ça n'arrivera pas. Et c'est dur à se dire. Et c'est hyper dur à se dire, de se dire, ben ouais, ça sera pas terrible. Mais c'est en faisant, et ouais, c'est pas facile.
Alors justement, si on veut écouter ton premier épisode, ou même ton 30e, ou peut-être ton 35e, quand on diffusera cet épisode-ci, où est-ce qu'on doit se diriger, et qu'est-ce qu'on doit suivre éventuellement sur les réseaux sociaux, quel est ton site internet, où est ton infolettre, ta newsletter, tes emails privés, où est-ce qu'on trouve tout ça?
Alors, ben, biomécanique. Sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, enfin n'importe où, vous tapez biomécanique, même sur YouTube. Sur YouTube, le nom, ça va être biomécanique podcast, parce que les gens, ils savent que c'est du podcast et que c'est pas des vidéos, mais elles sont en vidéo, mais c'est du podcast. Donc là, c'est très simple, là, tu tapes ça sur n'importe quoi et tu vas trouver. Et sinon, pour le faire partie un peu de la mailing list, faire partie de la lettre, c'est biomecaniquepodcast.com/lettre.
Ok. Voilà.
Donc c'est le site biomecaniquepodcast.com, tout attaché. En fait, le site, il est là uniquement pour exister, parce que je renvoie pas grand monde dessus, si ce n'est juste le hashtag lettre, mais qui est en fait un lien qui redirige vers la page de capture du mail, là, pour ceux qui veulent rentrer leur mail et recevoir la lettre. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Hein. Et sinon, partout, hein, les réseaux, sur Instagram, bon, il n'y a pas grand intérêt puisque je reposte les épisodes. Donc ceux qui sont abonnés ou ceux qui sont sur la lettre, ceux qui sont abonnés à la plateforme, ils n'ont pas nécessairement besoin de s'abonner sur Instagram. Ils peuvent le faire pour faire grossir mon ego. voilà. Sinon, sur Facebook, j'ai pas fait de page biomécanique, c'est juste Jérôme Cazerolle, ostéopathe Montréal.
Ok, super. Bah, merci beaucoup, Jérôme, pour t'être livré aussi longtemps. Hein, tu vois, on n'est pas loin de ton épisode de 2 heures avec Rudy. Merci beaucoup pour toute cette sincérité. Merci beaucoup pour toute cette sincérité. Je ne vais pas y arriver, là. Cette authenticité pour tout ce que tu nous as délivré. Moi, c'était Hermano. Si vous voulez me retrouver, vous allez sur podcast.nakan.ch ou sur vestiaire au pluriel. .org et vous retrouvez deux de mes principales productions. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis, bah, si, il y a quand même un endroit où on peut nous retrouver aussi. Si vous êtes podcasteur ou si vous travaillez pour un studio de podcast, même si c'est pas trop l'essence du groupe, venez faire un tour du côté de Podcast Maker. On vous accueillera avec plaisir et puis on sera très heureux d'échanger avec vous. Merci beaucoup à toutes et à tous et merci à toi, Jérôme.
Eh bien, moi, je te remercie à mon tour. C'était très agréable. C'est la deuxième fois que ça m'arrive de me faire interviewer. Enfin, de me faire interviewer, on va dire que je sois pas l'autre, on va dire. Et c'était très agréable. J'apprécie beaucoup. Et je te promets que je vais aller écouter Alors, peut-être pas les 4 podcasts que tu fais, parce que je sais pas si je vais trouver le temps. Mais en tout cas, ceux dont on a mentionné aujourd'hui, je vais aller les écouter. Et j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce moment-là. Donc, je te remercie. Et puis, je te dis, j'espère à très bientôt, quoi.
Merci beaucoup, Jérôme. À plus.
Bye.